Maybe this time you will stay. I kept your clothes untucked right where you left them in your drawer. Every effort makes you drift away so far. A never-ending story is surrounded in an empty space. I possess the keys, but I'm still locked up in this place. While I'm awake, contemplating my mistakes, your side of the bed is still unmade in case you see all the things I wanted you to be. The solitude I feel is now consuming my every thought. Try to break away, but I'm still circling the spot. I can't wait no more. No, I can't wait no more. If I wait too long, I might just hit the wall.
Les amis, on va couper la musique. Voilà, j'essaie de faire les choses proprement puisqu'on a, nous avons un invité de marque ce soir. Pour l'instant, j'ai rien raté. La musique s'est arrêtée, les micros sont ouverts, la caméra est allumée. Toute petite différence de taille au niveau, mais c'est pas grave.
C'est ça.
Bonsoir Roch-Olivier Maistre.
Bonsoir Samuel.
Comment allez-vous ?
Écoutez, ça va très bien. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup de votre invitation.
Je vous rapproche le micro.
L'occasion pour moi de faire partager ce qu'est cette belle autorité que je préside sur des domaines absolument formidables qui touchent à nos libertés, à une liberté fondamentale, en l'occurrence, la liberté d'expression. Je suis vraiment très content de partager ce moment.
On va aborder des sujets passionnants et essentiels. C'est à question pour un champion, quand je rencontre mes invités au début, je leur demande toujours si je prononce bien le nom de famille. J'ai prononcé le S de Maistre.
On prononce le S de Metz.
Ouf.
Absolument. Donc vous avez bon.
Parce que parfois, il y a des gens très gentils, très polis qui vous laissent écorcher leur nom pendant toute une durée d'émission et à la fin, ils me disent « Vous faites ça,
ça. ?»
Et là, vous êtes très gêné. Ok, ça...
Non, non, là, c'est bon.
C'est bon. Alors, je vous montre un petit peu. Je vous fais le tour du propriétaire. Voilà, là, on est dans la petite pièce où je fais ma revue de presse du matin. Vous voyez, c'est très sommaire, finalement. C'est assez artisanal. Le petit PC, ici, qui nous sert à fabriquer tout ça. La console, d'ailleurs, on va demander à nos amis dans le chat là, qui commencent à nous faire des bonsoir. Si le son, si la bon, l'image, ouais, elle est OK. Le son me semble OK. Est-ce que c'est... MGCTF All Clear, ok. Est-ce que c'est propre? Est-ce que vous voulez que je peux monter un petit peu les niveaux? Si c'est trop, c'est nickel. Le son est ok. Parfait, d'accord. Alors après, certains de ceux qui nous regardent sur PC, d'autres sur le téléphone dans les transports, d'autres avec un très bon casque. Alors c'est pour ça que parfois les avis divergent un peu. Mmh. On a quand même beaucoup de nickel et d'impec.
Ouais, le son s'est amélioré.
Donc on va rester comme ça. Mmh. Voilà, les amis, ça, techniquement, ça me semble pas mal. Oui, alors vous voyez, il y a Mix qui nous dit « Ta tasse de café me stresse, Samuel ?» Oui, parce que je suis un grand caféinomane. Vous noterez que mon invité a un verre d'eau aussi, ici dans le coin, qui n'est pas loin. La règle, normalement, en matière informatique, c'est qu'on ne boit pas au-dessus des machines. Mais tout le monde le fait. Je le fais. Il me faut beaucoup de café le matin. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai renversé un peu de soda sur une table de mixage comme ça, qui l'a très mal vécu.
J'ai expérimenté ça sur deux portables, dont un que je venais d'acheter. Donc, j'en garde un fort souvenir.
Donc, on va faire attention. Mais c'est vrai que j'étais un peu triste du sort qui lui a été réservé. Vous, comment ça va? Je vais vous présenter notre invité. Lui d'ailleurs, vous dire ce qu'est l'ARCOM, même si je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez. Je sais que vous avez énormément de questions sur l'ARCOM et sur les questions qui l'intéressent. Je vous m'en parlais suffisamment au quotidien, de la régulation des médias, de la régulation d'Internet, de la protection de certains publics par rapport à certaines images, notamment violente. L'actualité, d'ailleurs, nous fait nous intéresser encore plus à ce sujet. Donc, certains connaissent très, 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 très bien le sujet. D'autres, on va en parler. Voilà, il y a Tim de Mercat, par exemple, qui nous parle du nouveau CSA. Ça n'est pas tout à fait faux, effectivement. Allez, je vous lis un petit peu. Voilà, parfois, ça part très directement. On dit les termes. Bredzouille, faut-il dégager Hanouna? Je ne suis pas sûr que notre invité réponde directement à cette question. En revanche, la question de la régulation de la télévision et le cas singulier de C8 et de TPMP, qui, je crois, a été visé par des amendes assez salées par l'ARCOM ces dernières années, qui finance d'ailleurs le cinéma, si je ne dis pas de bêtises, le CNC. Ça, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Mais pas que Hanouna, la régulation de la télé. Quelle régulation, bien sûr, c'est la question. Et je regarde un petit peu si vous avez des petites remarques à faire. Voilà, 50% CSA, 50% Adopi, ça se précise un petit peu. Il y a Mix qui nous dit il lui faut un pseudo pour Twitch. Non, il n'est pas obligé, Roque-Olivier, d'avoir un pseudo sur Twitch. Quand on devient streamer, on doit se créer un pseudo. Ne tombez pas dans ce piège, parce qu'ils vont vous en proposer un et vous allez voir, ça va partir dans tous les sens, puisque c'est un outil où on peut échanger, apprendre plein de choses, mais dire plein de bêtises aussi. Voilà, très bien ça. Et Redar, la question de la concentration des médias, ça, c'est quelque chose dont le public de Twitch me parle beaucoup. Qui possède les médias? Voilà. Est-ce qu'on peut faire confiance à des médias dont certains sont la propriété de milliardaires? Quel est l'intérêt de ces grands groupes? Voilà, ça, je ne sais pas si vous voudrez aller là-dessus, mais je sais que c'est une question qui les intéresse beaucoup. Est-ce qu'on peut commencer, Roque-Olivier, par une présentation rapide, une définition de l'ARCOM, né il y a un peu plus d'un an, janvier 2022.
Exactement.
De la fusion.
Exactement. C'est une autorité récente, en fait. C'est une autorité publique indépendante qui est née de la fusion de l'ancien Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui a vu le jour, lui, il y a une quarantaine d'années, et puis d'Adopi, qui était l'autorité en charge de la lutte contre le piratage. Et donc, on a fusionné les deux pour avoir un grand régulateur qui soit compétent à la fois sur les médias audiovisuels traditionnels, mais aussi, on va y revenir, sur les grands acteurs du numérique, puisqu'on a, on est un peu au début de l'histoire, mais on a une régulation qui est en train de se mettre en place progressivement de ces acteurs. Et donc l'ARCOM a cette mission d'assurer le bon fonctionnement des médias audiovisuels traditionnels et puis de s'engager dans la régulation des grands acteurs du numérique.
Alors ça, la régulation des grands acteurs du numérique, c'est un sujet qui nous intéresse. Et on parlera notamment de la régulation des réseaux sociaux. À l'instant, Stéphanie me disait, ARCOM, ça veut dire quoi ? ARCOM, ça veut dire
c'est Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le sigle est venu un petit peu d'inspiration de l'ARCEP, qui est l'autorité, elle, de régulation des télécommunications. C'est le gendarme des télécommunications, des télécoms. Et donc voilà, le législateur s'est un petit peu inspiré. Donc l'ARCEP pour les télécoms, l'ARCOM pour le monde de l'audiovisuel et du numérique. On peut peut-être, Samuel, quand même dire deux mots sur ce qu'est l'autorité. C'est peut-être utile de rappeler à tous ceux qui nous voient, qui nous écoutent, que c'est une autorité indépendante, ce n'est pas un 20 mots. C'est une autorité qui est d'abord collégiale, c'est-à-dire tout ce qui est décidé par l'ARCOM est délibéré par son collège.
Neuf membres, hein, c'est ça,
qui sont nommés par cinq autorités différentes, qui ont un mandat de 6 ans. C'est un mandat qui n'est pas renouvelable. Et le collège se renouvelle par tiers tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, il y a 2 membres qui s'en vont, 2 membres qui rentrent. Et donc ce collège est très fortement indépendant de l'exécutif. On n'est pas sous les ordres d'un ministre, on n'est pas sous les ordres du Premier ministre ou du Président de la République. On rend des comptes, bien évidemment, publiquement. D'ailleurs, ce qu'on fait ce soir, c'est une façon de rendre compte de notre activité. On rend des comptes devant le Parlement, on est soumis au contrôle de la Cour des comptes, mais c'est une autorité qui est pleinement indépendante.
J'ai plein de questions qui pop et je vais geler notamment sur le nombre de membres. Vous avez dit autorité indépendante, mais vous venez aussi de dire que les 9 membres sont nommés par les autorités, dont certaines sont politiques. Il y a le président de la République qui nomme, je crois, le président de l'ARCOM. Il y a le président du Sénat, qui en nomme deux.
Il y a trois membres qui sont nommés par le président du Sénat, trois par le président de l'Assemblée nationale, un par le vice-président du Conseil d'État, un par le premier président de la Cour de cassation et un par le président de la République. Mais au-delà de ces pouvoirs de nomination, chaque nomination doit être validée par le Parlement. Donc c'est un gage là aussi d'indépendance supplémentaire. Et puis les membres sont soumis à un régime d'incompatibilité très sévère. Donc pendant qu'on est membre de l'ARCOM, puisqu'on est membre à temps complet, on ne peut rien faire d'autre, bien évidemment. On ne peut pas avoir d'autres activités, éventuellement enseigner ou écrire, mais on ne peut pas avoir d'autres activités professionnelles. Et quand on quitte l'ARCOM...
Notamment bien sûr dans les médias.
On quitte l'ARCOM, pendant les 3 ans qui suivent votre mandat, mais en substance, vous pouvez en tout cas rien faire dans le champ d'activité de l'ARCOM. Ça va sans dire. C'est un régime d'incompatibilité qui est l'un des plus sévères qui soit.
Mais le fait qu'on soit nommé par une autorité politique, comme le président du Sénat ou de l'Assemblée, ou le président dans votre cas, n'induit pas un lien de suggestion.
Il n'y a aucun lien de subordination.
C'est important.
C'est une indépendance complète. La proposition de nomination, puisque c'est une proposition de nomination, je l'ai dit, doit être validé par le Parlement, donc on est auditionné par le Parlement.
Qui refuse parfois.
Qui pourrait refuser, ça ne s'est pas produit jusqu'à maintenant, mais qui pourrait tout à fait s'opposer au choix qui est fait. Et du coup, les autorités de nomination, elles font quand même attention à choisir des profils de personnalités qui connaissent les sujets et qui sont en principe incontestables.
Je connais l'un de mes anciens confrères, Hervé Gautchot. Hervé Gautchot, c'est un ancien journaliste de La Trois, rédacteur en chef.
Qui a rejoint l'autorité en même temps que moi.
Que vous, avec qui j'ai travaillé au 12-13 de France 3, et c'est un journaliste.
Respecté, reconnu, qui apporte à notre collège la sensibilité d'un journaliste. Et c'est important. C'est important ce collège parce que c'est des profils très variés. Il y a toutes les générations, des gens...
Oui, vous avez vu la question, quelqu'un nous demandait l'âge moyen, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Alors l'âge moyen, écoutez, c'est une bonne question, il est plutôt dans la zone post-50 ans, mais il y a quelques membres du collège qui sont en dessous, et c'est important d'avoir plusieurs générations, plusieurs types d'expériences, des profils très différents, des journalistes, il y a des producteurs, il y a des ingénieurs, des juristes, je l'ai dit, voilà, il y a des profils qui sont radicalement différents, et c'est ça qui rend les délibérés, puisque sur tous les sujets, il y a beaucoup de sujets qui viennent à l'ordre du jour, eh bien, il faut qu'on arrive collectivement à 9 à se mettre d'accord pour dégager une position qui est une position d'intérêt général, conforme à ce qui nous semble être l'intérêt du secteur.
Et 9, c'est intéressant, parce que on peut remonter dans le chat, on peut descendre, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Quelqu'un disait, mais 9, c'est assez, parce qu'on sait l'étendue de vos missions. Alors, vous êtes 9 membres. On dit pas neuf sages pour l'arc, comme on dit.
Alors on appelle les sages.
Si, parfois.
Mais bon, voilà.
On dit neuf membres.
Neuf membres en tout cas.
Et mais vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire que vous avez toute une équipe de personnes qui travaillent avec vous à l'ARCOM. Je crois qu'on parle de plusieurs.
Oui, c'est une grosse équipe. C'est une grosse administration. Il y a 400 personnes.
400 personnes. Voilà.
Avec la particularité d'avoir des implantations dans chaque région de France. Donc on a des mini ARCOM qui sont présents dans 16 régions de France, notamment Outre-mer. Pourquoi ? C'est parce qu'on a des médias, on a une densité de médias très importante en France et notamment beaucoup de radios. Il y a plus de 1000 radios en France et donc nos implantations locales nous permettent d'être en relation directe avec tous ces médias de proximité, notamment toutes ces radios associatives qui jouent un rôle très important.
Et par contre,
donc c'est une des forces de l'institution d'avoir ce lien direct sur le territoire avec les Français, avec les médias de proximité.
On a aussi une très belle presse quotidienne régionale, mais on est d'accord que l'ARCOM ne s'intéresse pas à la presse écrite.
Non, hein, l'ARCOM n'est pas compétente sur la presse écrite. Elle s'occupe de la télévision, de la radio, et puis comme on l'a évoqué tout à l'heure, un peu maintenant des acteurs du numérique.
Un peu, plus en plus.
Plus en plus.
Et d'ailleurs, question qu'on m'a déjà posée ici et que je me pose aussi, en fait, il n'y a pas d'équivalent pour la presse écrite, autorité de régulation.
Non, il n'y a pas d'équivalent pour la presse écrite. La presse repose sur un modèle qui est assez différent. En fait, il faut se rappeler, parce que je pense que nos auditeurs qui sont dans une génération qui n'a probablement pas connu ça, ne savent pas qu'il y a encore 40 ans, on avait un monopole d'État sur la télévision et la radio en France. C'était l'État français qui régissait la télévision. Il y avait très peu de chaînes, vous le savez.
Il y avait le RTF.
Et puis qui régissait la télévision. Et donc ce monde s'est ouvert au début des années 80 avec l'arrivée de chaînes privées, Canal+, la privatisation de TF1. Et puis c'est un monde qui a la libération de la bande FM pour la radio, qui était un moment très important au début des années 80. Et pour organiser ce paysage audiovisuel qui devenait très foisonnant, il a fallu se doter d'une autorité indépendante qu'on appelle le gendarme de l'audiovisuel. Bon, c'est une de nos activités, mais c'est une vision un tout petit peu réductrice, puisqu'on aura l'occasion de le dire ce soir. C'est une autorité qui fait beaucoup, beaucoup de choses, en réalité très diverses.
On va essayer de définir ces missions, mais c'est vrai qu'elles sont nombreuses. Là, je vous montre un des aspects assez séduisants, je trouve, de Twitch. Vous voyez, là, il y a une petite phrase qui nous indique que Santo, le best, lance un raid avec un groupe de 187. Raid, c'est un mot qui semble agressif, mais en fait, qui est très beau, qui est très chaleureux dans le champ sémantique de Twitch. À la fin de ce stream, nous aussi, on fera un raid très pacifique, c'est-à-dire que tous les gens qui sont avec nous, là, vous avez un peu plus de 1800 viewers en début de stream, donc merci d'être aussi nombreux déjà. À la fin de ce stream, nous allons faire basculer l'intégralité de notre audience sur une autre chaîne d'un autre créateur de contenu pour le mettre en lumière, pour faire découvrir son travail. C'est comme si, je prends toujours le même exemple, c'est comme si Laurent Delahousse, par exemple, pour ne citer que lui, à la fin d'un 20h, envoyait ses 5 millions de téléspectateurs, par exemple, sur un documentaire sur Arte, en disant « Allez voir ce documentaire, il est formidable ». Ce serait étonnant. Alors bon, entre chaînes, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué pour entre chaînes, effectivement.
Mais c'est un bel outil.
C'est un bel outil.
Donc, Santo le best, merci. En plus, Santo le best, c'est quelqu'un qui fait un travail assez intéressant de lutte contre les arnaques, vous savez ? Arnaque au téléphone, ce qu'on appelle les brouteurs, les gens qui abusent un peu de la crédulité des gens. Donc sur Twitch, il y a aussi des gens qui font un travail comme ça.
Une question qui nous est posée, qui est importante, oui. Samuel, c'est y a-t-il autant d'hommes que de femmes? Et oui, le collège est paritaire.
Pourtant, vous êtes neuf.
On est neuf. Voilà. Le président, en l'occurrence, est un homme, mais le reste du collège est effectivement paritaire. Ce qui est important parce que parmi nos missions, on doit veiller à ce que les médias donnent une juste représentation de la diversité de la société française. Et l'une des questions, bien évidemment, très, très importante, c'est comment l'égalité entre les femmes et les hommes s'exprime dans les médias audiovisuels, à la fois par les animateurs, les journalistes qui font les programmes, mais aussi dans les programmes eux-mêmes, dans les fictions. Et donc le fait d'être paritaire, et je pense un élément très, très important dans la conduite et la bonne conduite de l'action de cette autorité.
La parité a progressé ces dernières années.
La parité a progressé,
à la télé,
incontestablement.
À la radio.
Alors je crois que c'est lié à plusieurs choses. D'abord, on a trois femmes qui président les entreprises de l'audiovisuel public, donc France Télévisions, Radio France, France Média Monde. Ouais. Trois présidentes qui ont naturellement une très forte sensibilité à ces sujets. La nouvelle génération aussi des patrons de télé ont une vraie sensibilité à ces questions. Et puis la société française évolue quand même très fortement sur ces sujets-là. On n'est pas encore une parité parfaite, mais on tend à cette parité et c'est pour nous quand même un sujet tout à fait prioritaire. J'espère qu'à la fin de mon mandat, qui approche maintenant, puisque je suis dans ma cinquième année à la tête de cette autorité, on sera presque à 50-50. Je rappelle qu'il y a 52% de femmes dans la société française.
6 ans, le mandat 6 ans.
Le mandat est de 6 ans.
Pas renouvelable.
Et pas renouvelable.
Et,
voilà.
Et c'est pas. Enfin, c'est, question, hein, pardon. Est-ce que c'est pas un peu dommage? Parce que, du coup, pendant 6 ans, on peut estimer qu'un membre de l'ARCOM se spécialise de plus en plus, maîtrise de plus en plus ses sujets. 6 ans, ça passe assez vite. C'est bien ça que ce soit pas reconductible?
Je pense que ça participe de cette idée
de
préserver l'indépendance. Alors effectivement, il y a des autorités où les mandats sont renouvelables. Par exemple, la CNIL, qui s'occupe de la protection de nos données, le mandat du président, en l'occurrence c'est une présidente, est renouvelable. Pour l'ARCOM, ce n'est pas le cas. Et donc, en 6 ans, vous savez, on peut faire beaucoup de choses. Bon, moi, j'aurais eu la chance, on va peut-être en parler ce soir, d'exercer ce mandat à un moment de transformation absolument spectaculaire du secteur audiovisuel. On va pouvoir y revenir, mais c'est quand même quelque chose de très frappant. Et donc, d'avoir pu faire muter, j'allais dire, l'autorité qui était en charge de cette régulation. Je vais laisser une autorité qui n'aura pas grand-chose à voir avec ce qu'était le CSA, j'allais dire le CSA de papa, le CSA d'autrefois. Voilà, c'est
mais,
une autorité
si vous voulez, on va
dont le champ s'est extraordinairement
on
étendu
peut commencer par ça,
et a
dû
s'adapter à un paysage qui est très nouveau, oui, dont
parce
on peut
que
peut-être dire un mot, effectivement.
Pour répondre à Eredar 157, qui dit « Je crois que l'ARCOM ne régule pas Internet », et si, justement, l'ARCOM, maintenant, de plus en plus s'intéresse à la question numérique, avec une forme d'encadrement, de régulation, bah, vous me direz, Roch-Olivier, les termes que vous préférez. Mais commençons peut-être par la mission qui était celle du CSA, donc de régulation. Hein,
alors, la mission traditionnelle, donc, c'est la régulation des médias audiovisuels. Elle revêt plusieurs facettes. Alors, d'abord, il y a une facette, j'allais dire, technique et juridique. C'est nous qui autorisons les chaînes de télévision et les chaînes de radio à émettre.
C'est ce qu'on appelle l'autorité de diffusion.
C'est nous qui attribuons les fréquences sur lesquelles les chaînes de télévision et les radios émettent, donc les fréquences hertziennes. On le fait après un appel à candidature. Et d'ailleurs, là, on va rentrer dans une période tout à fait inédite de l'histoire de la télévision française, puisqu'en 2025, on a 15 chaînes de la TNT, donc la télévision numérique terrestre, qui arrive en fin d'autorisation. Et donc, on va lancer un appel à candidature sur ces 15 fréquences qui vont se libérer.
Ça veut dire concrètement que certaines nouvelles chaînes peuvent obtenir des autorités d'émettre et certaines la perdre.
Et certaines la perdent, voilà, exactement. Alors, c'est ce qu'on a fait récemment pour TF1 et M6, qui étaient en fin d'autorisation. Donc, on a lancé un appel à candidature. Dans ce cas, on a retenu les deux candidats sortants, si je puis dire, mais on avait un outsider qui était candidat, qui était Xavier Niel, qui avait déposé un dossier de qualité. Et donc, voilà, il a
Et
fallu qu'on.
dans mon souvenir, dans les articles de presse qui évoquaient cette séquence, il y avait des questions sur M6, par exemple. Est-ce que M6 pouvait.
Exactement, exactement. Et ces appels à candidature, c'est l'occasion de remettre le paysage à plat, si j'ose dire, on repart d'une feuille vierge, on a des fréquences qui sont libres et donc on appelle aux candidatures et celui qui veut présenter un projet peut bien évidemment le présenter. Donc ça, c'est notre première mission, c'est nous qui attribuons les autorisations, c'est nous qui fixons les obligations qui pèsent sur les éditeurs de chaînes de télévision et de radio et c'est nous qui contrôlons le respect de ces obligations.
Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce point? On va parler du cahier des charges, ça c'est essentiel. Vous voyez, il y a plein de réactions sur C8. Bon, j'ai des viewers ici qui manifestement ne sont pas de grands consommateurs de C8. Voilà, je vous laisse lire quelques messages là-dessus. Est-ce que C8 prochainement, par exemple, donc va avoir ton autorisation à émettre remise en jeu? Est-ce que C8, par exemple, hein, pourrait perdre son autorisation d'émettre, par exemple.
Alors C8, mais bien, bien d'autres chaînes, puisqu'il y en a 15, je l'ai évoqué, donc fera partie des chaînes dont l'autorisation arrive à son terme en 2025. Donc ça va être précédé d'un long processus. Il y a d'ailleurs une première étape qui vient de se terminer à la fin du mois de septembre. On a d'abord consulté tout le secteur audiovisuel. On a interrogé tous les acteurs, y compris ceux qui sont titulaires d'autorisation, en disant, ben voilà, en 2025, il va y avoir 15 chaînes qui arrivent en fin d'autorisation. Comment vous voyez le sujet? Voilà. Et chacun peut s'exprimer. On est en train d'analyser ses réponses. D'ici la fin de l'année, on va réaliser ce qu'on appelle une étude d'impact, qui est une étude économique, parce qu'on est garant des équilibres économiques des entreprises de l'audiovisuel. Les chaînes privées, comme vous le savez, sont financées par la publicité. Est-ce que le marché publicitaire, tel qu'on le voit évoluer aujourd'hui, et notamment à l'échéance de 2025, permet de supporter encore 15 chaînes ou pas? Donc voilà, ça, on publiera à la fin de l'année. Et puis, on lancera au début de l'année prochaine donc un appel à candidature en bonne et due forme. Les candidats auront grosso modo 2 mois pour répondre, présenter un dossier. C'est des dossiers bien sûr très volumineux puisqu'il faut présenter la grille des programmes qu'on veut proposer. Hein. Quel type de chaîne? Est-ce qu'on veut faire une chaîne d'info? Est-ce qu'on veut faire une chaîne généraliste? Est-ce qu'on veut faire une chaîne culturelle? Donc il faut voilà, présenter son projet.
Ça, c'est le projet. Jusque dans le détail des émissions.
Jusque dans le détail d'une grille. Voilà, il
Ouais.
faut savoir quand même assez précisément qu'est-ce que le téléspectateur va
C'est un
trouver
sacré
dans le
travail.
poste. Et il faut bien évidemment présenter un modèle économique très, très solide pour être sûr que la chaîne que l'autorité va autoriser sera viable économiquement. Donc c'est un gros dossier qui va ensuite être analysé. On auditionne publiquement tous les candidats et c'est au terme de ce processus que le régulateur décide. Alors il décide sur deux familles de critères principaux, je dirais. Un premier critère, vous y avez fait allusion, Samuel, tout à l'heure, je pense qu'on pourrait y revenir à propos de la concentration. Premier critère, c'est celui du pluralisme, c'est-à-dire c'est de faire en sorte que les acteurs qui détiennent des autorisations d'émettre soient divers.
Ça, c'est la question de Nougat d'ailleurs. Est-ce que
Voilà,
vous
qu'on
avez
n'ait
une démarche
pas.
de non-concentration pour qu'un acteur n'ait pas trop de
Oui,
poids?
absolument, on a des règles anti-concentration dont nous sommes les garants, c'est nous qui les mettons en œuvre. Il y a l'autorité de la concurrence de son côté qui contrôle le droit de la concurrence, mais l'ARCOM s'assure du respect des règles anti-concentration dans le secteur. On ne peut pas être propriétaire de toutes les chaînes de télévision, on ne peut pas être propriétaire de toutes les chaînes de radio, il y a des règles très précises. Et donc notre premier critère, c'est de veiller à ce qu'il y ait une pluralité d'acteurs pour que tous les médias ne soient pas entre les mains d'une poignée d'acteurs, précisément avec le téléspectateur, et la garantie d'avoir une diversité de sources d'informations, une diversité de sources de programmes. Le deuxième critère est assez général, c'est celui de l'intérêt du téléspectateur. On a 30 chaînes sur la TNT, comme vous le savez, et donc l'idée, c'est d'offrir au téléspectateur un panorama le plus divers possible, le plus diversifié possible.
Et là, c'est le contenu de la chaîne qui va
C'est le contenu
compter
de la
là.
chaîne. Et donc voilà, c'est la combinaison des deux qui va guider, et puis bien sûr la solidité du projet, la qualité du projet.
Et alors, vous avez parlé de cahier des charges. Donc, l'ARCOM établit un cahier des charges pour chaque chaîne qui a reçu, si je
Exactement.
comprends bien, une autorisation d'émettre. Après, est-ce que vous surveillez la bonne
Tout à
réalisation
fait.
du
Alors,
cahier des charges? Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y a des
une
sanctions?
fois qu'on autorise la chaîne à émettre, donc on délivre une autorisation, c'est une autorisation qui est valable pour une durée maximale de 10 ans, qui peut être renouvelée pour 5 ans. On conclut une convention avec chaque éditeur. Donc, dans cette convention, on va mettre tous les engagements que l'éditeur a pris devant nous. Il nous a présenté un projet, il nous a présenté un dossier, il nous a présenté une grille. On va décliner tout ça dans une convention qui va être autant d'obligations
Bien sûr.
qui va lier l'éditeur. Si on est autorisé pour une chaîne d'information, bah, le lendemain, on ne peut pas faire une chaîne musicale
Alors, du coup, je rebondis,
ou
parce
une
que vous
chaîne de
parlez de chaîne
cinéma.
d'information. Il y a plusieurs de nos viewers, notamment Eldo dans le chat, qui dit donc, dans le cas de CNews, malgré l'angle pris de manière ouverte, c'est une question qui a été posée ailleurs, à un moment de devenir, selon certains, plus une chaîne d'opinion avec beaucoup de débats, plus qu'une chaîne d'information, en tout cas que la chaîne d'information qu'elle a été auparavant. Est-ce que là, on peut considérer, ou la question s'est-elle posée, de se demander si c'était une évolution par rapport au cahier des charges? Est-ce que la question s'est posée sur
Oui,
ce cas précis?
la question est
Oui?
posée parce qu'elle nous est posée. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que l'ARCOM, c'est important de le dire ici, n'est bien évidemment pas une autorité de censure. Hein, elle n'examine pas les programmes en amont de leur diffusion. Elle n'est saisie éventuellement sur les programmes d'une chaîne de télévision qu'a posteriori. Une fois qu'un programme est diffusé, eh bien on peut alerter l'ARCOM en disant. Ce programme, à mes yeux, soulève telle ou telle difficulté, m'a heurté, m'a
Et ça,
choqué pour telle et
c'est
telle
les
raison.
téléspectateurs qui le
C'est
font.
les téléspectateurs qui le font. On va sur le site de l'ARCOM, c'est très commode, il y a un formulaire très, très simple qu'on peut remplir en quelques secondes. Et à ce moment-là, l'ARCOM, sur le programme sur lequel elle est alertée, va revérifier la séquence, va en faire l'analyse juridique et justement va voir si c'est conforme ou pas aux obligations de l'éditeur.
Sur cette question, par exemple, de l'évolution éditoriale de CNews,
c'est vrai qu'on a une convention qui est une convention un petit peu ancienne, qui était la convention de d'ITélé, qui était une chaîne de télévision donc, qui avait été autorisée.
J'ai travaillé 9 ans, voilà, donc je la connais bien.
Je l'évoque en connaissance de cause, Samuel, devant vous. Et c'est vrai, quand cette chaîne est passée sous contrôle d'un autre actionnaire, donc
Monsieur Bolloré,
la convention est restée en vigueur. Et c'est vrai que la chaîne a changé de ligne éditoriale, mm-hmm. comme on dit, par rapport à ce qu'elle était précédemment. Alors nous, sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on vérifie ? On vérifie une règle qui est posée par la loi, qui est celle du pluralisme. Les médias audiovisuels, c'est un point important, c'est assez propre à la France d'ailleurs, il faut le dire, doivent permettre un accès équitable aux forces politiques qui concourent à notre débat démocratique. Mmh. Donc toutes les forces qui sont représentées au Parlement doivent pouvoir, à proportion de ce qu'elles représentent dans notre vie démocratique, accéder à nos médias. Et donc on nous communique tous les mois les temps de parole des personnalités politiques qui sont invitées sur l'ensemble de ces plateaux.
Y compris hors échéance électorale.
Y compris hors échéance électorale, en effet. En période électorale, il y a un contrôle un peu plus renforcé. Et donc, on vérifie ces équilibres. Alors, effectivement, CNews respecte cette règle-là. C'est-à-dire, donc, quand on contrôle les temps de parole des personnalités politiques qu'ils invitent, on voit que les équilibres sont représentés. Mais exprime une ligne éditoriale à travers des journalistes, à travers des éditorialistes. Et ça, la loi ne nous demande pas, et on comprend bien, de contrôler, bien évidemment, les journalistes ou les éditorialistes qui sont libres. Et il ne faut jamais oublier que l'une des missions premières de l'autorité, c'est de garantir la liberté de communication. Et donc ça, ce droit des journalistes à exprimer leur position, leurs sentiments, les éditorialistes à le faire, n'est pas contrôlé de notre part. Donc ce qu'on contrôle, c'est le pluralisme politique au sens strict, c'est-à-dire les personnes qui sont engagées dans l'action politique parce qu'elles ont un mandat parlementaire, un mandat d'élu, ou qu'elles sont membres d'un parti politique.
Oui, il y a Alec qui me dit, est-ce que l'extrême droite fait partie de la pluralité des opinions? À partir du moment où l'extrême droite dont tu parles a des représentants à l'Assemblée, eh ben, ça rentre dans le cadre qu'on vient de donner.
Exactement.
On va évidemment pas passer ce stream sur le groupe C8 CNews, mais vous avez vu passer, et après on passera à autre chose, mais des questions sur C8. Ici, on lit la presse tous les jours, et on a vu que ces derniers mois, ces dernières années, l'ARCOM avait décidé de sanctions d'amende à assez élevé.
Les amendes importantes, c'est la plus importante qu'on ait prononcée. Alors ça mérite peut-être qu'on s'y arrête.
Donc
parce que
je précisais après des séquences intervenues dans l'émission TPMP, hein, je dis pas ouais, présentée par Cyril Hanouna, donc des amendes dont la plus importante, vous l'avez en mémoire, hein, le niveau d'amende?
La plus grosse amende qu'on ait prononcée, c'est de 3,5 millions d'euros.
Donc ça n'est pas rien. Donc là, ce sont des téléspectateurs qui vous saisissent, toujours le même processus.
C'est toujours le même processus, donc on est alerté sur un programme. Que devient cette alerte? Donc elle va faire l'objet d'une analyse. Parce que souvent, on est saisi sur un morceau de programme. Et ce qui est important, c'est bien sûr, c'est de le mettre dans son contexte, mm-hmm. dans la globalité. Et donc on va regarder la totalité de la séquence. Qu'est-ce qui a été effectivement montré? Qu'est-ce qui a été effectivement dit? Est-ce qu'il y a une contradiction qui a été apportée sur le plateau? Est-ce que le journaliste qui animait l'émission assurait bien la maîtrise de l'antenne, ouais. ce qui est une obligation que tous les journalistes doivent assumer à la télévision ou à la radio. Et ensuite, en fonction de ces constats, on va faire une analyse juridique. Est-ce que ce qu'on a vu, ce sur quoi on est alerté, constitue un manquement aux obligations de l'éditeur? Ce qui est important de souligner, et ce qu'il faut que chacun retienne bien, c'est que nous, notre interlocuteur, c'est l'éditeur de la chaîne de télévision. Ce n'est pas l'animateur, mmh. ce n'est pas la personne qui s'exprime. Et donc, quand on prononce une sanction, ce n'est pas contre Samuel Etienne, le cas échéant, c'est contre l'éditeur qui l'emploie. Et le processus d'intervention de l'ARCOM est très encadré par la loi, ce qui est normal parce qu'on est dans un champ d'une liberté publique fondamentale, qui est la liberté d'expression.
C'est des questions très sensibles. Hein.
C'est hyper sensible, mmh. et donc il faut bien évidemment veiller à préserver cette liberté d'expression. Donc on le fait quand un manquement est réellement caractérisé. C'est un processus à l'État, puisque la loi nous impose, quand il y a eu un manquement, d'abord de prononcer ce qu'on appelle une mise en demeure, c'est-à-dire de dire à l'éditeur, d'écrire à l'éditeur, écoutez, là, sur cette séquence, vous avez manqué à vos obligations, et donc je vous mets en demeure pour l'avenir de respecter. Donc c'est le carton jaune du football.
Oui.
Vous n'avez pas respecté votre obligation, et sachez que si vous recommencez un manquement de même nature, vous vous exposez à une sanction.
Bon, s'il y a eu amende, c'est que je suppose que le carton jaune n'a pas été super respecté.
Exactement.
Quoi.
Exactement. Et alors, souvent, voilà, on nous fait un peu la critique, mais vous êtes lent, vous êtes... Oui, mais c'est parce que, justement, on agit dans un champ qui est celui d'une liberté. Et ça, ça mérite des précautions.
Et puis ce,
on
sont
peut
des,
pas traiter ce sont des décisions comme ça dans un claquement
collégiales que vous prenez.
C'est bien sûr des décisions collégiales.
Avec un dossier qui est instruit, par, je crois, par un
rapporteur indépendant, voilà, qui va instruire, qui est un membre du Conseil d'État. Mmh. Ça s'instruit à charge et à décharge. Donc on interroge l'éditeur, il fait valoir ses... On les auditionne éventuellement publiquement s'ils le souhaitent. Leurs avocats peuvent faire valoir bien sûr leur point de vue. Et puis après, on délibère et on prononce des sanctions. Et toutes nos décisions, il faut le rappeler, se prennent sous le contrôle du juge. Donc elles peuvent être elles-mêmes contestées devant le Conseil d'État qui, le cas échéant, s'il estime qu'on est allé trop loin et au regard justement de la liberté d'expression, peut nous sanctionner.
Alors,
donc notre mission, c'est vraiment cet équilibre permanent. C'est ça qui rend d'ailleurs le métier passionnant, entre la liberté d'expression d'un côté, très protégée dans notre droit, protégée par notre Constitution, protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, protégée en Europe par la Cour européenne des droits de l'homme, et puis la nécessité de protéger les publics. Il y a un certain nombre de limites qui sont posées par la loi. On ne peut pas tout montrer à la télévision, on ne peut pas tout dire à la radio. Et donc voilà, on est constamment dans cette balance. C'est un équilibre très subtil. Mais quand un éditeur a manqué à ses obligations, bien la main de l'autorité ne tremble pas, parce que le législateur, c'est ça qu'il nous demande de faire. C'est de veiller à ce que les publics soient effectivement protégés.
Alors, fun fact, sauf erreur de ma part, l'argent des amendes,
ne vient pas dans notre caisse, elle va dans la caisse du Centre National du Cinéma.
Donc ça finance
la production.
Le cinéma français.
Voilà, exactement.
C'est formidable.
Exactement.
Il faut plein d'amendes, en fait.
Exactement. Donc là, mon collègue président du CNC est effectivement très content dès que je prononce des amendes.
Donc ça, je pense que certains ne le savaient pas. Il y a une question qui est apparue dans le chat, je n'ai pas la réponse. Est-ce que l'ARCOM s'intéresse aussi au contenu des chaînes publiques, puisque c'est une autorité indépendante mais publique, on est d'accord. Est-ce que le secteur public de l'audiovisuel, Radio France, France Télévisions, peut être également interpellé par l'ARCOM, averti, sanctionné?
Tout à fait, absolument. Alors d'abord, sur l'audiovisuel public, il faut rappeler qu'on a pas mal de compétences. D'abord, c'est nous qui nommons les patrons de l'audiovisuel public. Mm. C'est nous qui nommons les présidentes actuelles en exercice. Donc on a renommé il y a très peu de temps la présidente de Radio France et puis la présidente de France Média Monde. Delphine Ernotte verra son mandat actuel arriver à échéance en 2025.
Delphine Ernotte qui a été la première présidente
à être renouvelée.
C'est-à-dire jamais un président, présidente de France Télévisions n'avait été renouvelé jusque-là.
Ouais,
c'est
un peu un choix délibéré de notre part, mmh, au-delà de la qualité, bien évidemment, des dirigeants en question. C'est de donner à l'audiovisuel public un peu de stabilité, ouais, dans une période, on va peut-être en parler, Samuel, de très grande transformation, mmh, du paysage. Je crois que cette stabilité est une bonne chose pour ces entreprises. Donc on nomme ces dirigeants.
Et c'est vraiment vous, pardon, hein, je mets les pieds dans le plat, c'est vraiment l'ARCOM qui nomme les dirigeants de l'audiovisuel public en toute indépendance et pas avec un coup de fil de l'Élysée qui dit, écoutez, il faut maintenir cette personne ou changer. Vous voyez ce que, parce que...
Tout à fait. Alors la procédure, c'est un petit peu comme pour les chaînes de télévision qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ouais, il y a des candidats qui sont déclarés, qui, mmh, présentent des dossiers, bien évidemment. On les auditionne et les auditions sont publiques. Les dossiers de candidature sont publiés. Donc, c'est une procédure qui est totalement transparente. Et la décision, ça, c'est une particularité pour l'autorité, se prend à bulletin secret.
Ah.
Donc, c'est un vote. Donc, voilà, les 9 personnes doivent
et
décider.
Est-ce que c'est comme pour l'élection du pape, c'est-à-dire il y a plusieurs tours parce qu'il faut
Il peut y avoir plusieurs tours.
Il faut qu'il y ait une majorité.
En l'occurrence, voilà, les présidentes ont été élues.
D'accord.
Et bien élu,
puisque
en tout cas on contrôle effectivement les obligations du service public. On donne un avis tous les ans sur la façon dont l'audiovisuel public respecte son cahier des charges, dont la façon dont l'audiovisuel public respecte son contrat d'objectifs et de moyens. Vous savez, il y a un contrat entre l'État et chacune de ces entreprises qui leur fixe des objectifs et en contrepartie précise leur financement. Donc on donne un avis là-dessus, et si l'audiovisuel public manque à ses obligations, eh bien ça nous arrive de faire des signalements, des mises en garde, des mises en demeure, et le cas échéant, on pourrait tout à fait prononcer une sanction.
Donc là, on a évoqué le cadre de sanctions, de surveillance, de ce cahier des charges respecté ou pas par les chaînes. Et vous nous avez dit à plusieurs reprises, c'est extrêmement intéressant, que vous avez vécu une transformation extrêmement importante de ce secteur de l'audiovisuel, donc téléradio, en France. Après, on parle du numérique, bien sûr, c'est essentiel. Mais d'abord, parlons de cette transformation.
C'est ça qui est vraiment spectaculaire. Elle se caractérise comment, en fait ? Ça fait 40 ans que je m'intéresse à ces sujets. J'étais en 1986 au cabinet du ministre de la Culture au moment où on a adopté la loi de 86. Voilà, qui régit le secteur dans lequel on est aujourd'hui.
En fait, vous intéressez à ce sujet depuis toujours.
Oui, grosso modo, j'ai eu un parcours professionnel qui a un peu navigué entre les chiffres et les lettres. Mais bon, je me suis pas mal et régulièrement occupé de ces sujets qui me passionnent. Oui, alors ça, c'est peut-être intéressant de souligner ça. On est dans une période, de révolution. Je pense que le mot est le mot juste. D'abord, vous en êtes l'exemple vivant. On a une très forte révolution des usages. C'est-à-dire, on ne consomme plus les contenus audiovisuels comme on les consommait dans ma lointaine jeunesse. Regarder l'écran de télévision sur le canapé familial, ça peut encore se produire. Aujourd'hui, en France, il y a grosso modo pratiquement 6 écrans par foyer, entre le smartphone, la tablette, l'ordinateur, l'écran de la télévision. Et donc, ça conduit aujourd'hui à une fracturation de la consommation des contenus audiovisuels. Et c'est une fracturation par génération. L'âge moyen du téléspectateur de la télévision traditionnelle...
Il est très élevé.
Il est de 57 ans maintenant.
57 ans.
Il a pris 10 ans en 10 ans. Et pour le service public, il est pratiquement à 65 ans. Donc on voit bien...
Toute chaîne... On s'arrête sur ces chiffres parce que je suis sûr que certains ne les ont pas. Toutes chaînes confondues, la moyenne du téléspectateur français aujourd'hui en France, c'est 57 ans.
Voilà.
Et c'est 10 ans d'augmentation en 10 ans. C'est-à-dire que c'est très rapide.
Exactement.
Et sur le service public, un petit peu plus.
Et donc, les jeunes générations regardent des contenus différemment. Et c'est notamment, bien évidemment, le rôle que les plateformes, on va pouvoir y revenir, jouent. La deuxième transformation dans les usages, c'est qu'on voit bien qu'il y a une décélération de ce qu'on appelle la durée individuelle d'écoute de la télévision. Donc,
le public
vieillit.
On regarde moins.
Et ça diminue. Ça a diminué pratiquement de 20% sur les 3 dernières années. Donc, c'est quand même sensible.
Non. Le volume de consommation...
La durée individuelle est dans une baisse structurelle. Alors, elle reste quand même très élevée.
20% en combien de temps ?
Sur les 3 dernières années.
Mais c'est énorme.
Oui,
mais c'est
une chute. C'est une chute qui est importante, voilà. C'est une diminution qui est régulière, c'est vraiment une tendance. On avait eu un pic au moment de la
crise
pandémie,
crise sanitaire,
où tout le monde était bien sûr chez soi, et donc on regardait beaucoup.
Même sur Twitch, il y avait plus de monde.
Et dans les usages, ce qui change beaucoup, c'est les plateformes de streaming, bien évidemment. La moitié des Français, un peu plus de la moitié des Français maintenant, ont un abonnement à une plateforme de streaming, un Netflix, un Disney+, un Amazon Prime, un Apple TV. Ce qui change aussi beaucoup la donne, c'est précisément ces acteurs. Donc, d'un côté, les plateformes de streaming, de l'autre, les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils ont pour le secteur une conséquence très lourde au plan économique, parce qu'ils captent, ils capturent maintenant une part prépondérante de la ressource publicitaire. Hein, plus de 50% de la publicité qui va au secteur des médias est prise par les acteurs du numérique. Et parmi eux, 3 acteurs du numérique, donc qui sont Google, Meta et Amazon.
Et est-ce qu'on peut dire que ces acteurs ont diminué les ressources publicitaires et donc les moyens des acteurs traditionnels de l'audiovisuel radio-télé
Sur la télé, on voit bien que la ressource publicitaire est en léger déclin.
D'accord.
Donc non seulement plafonne, mais décline.
Ouais.
Et pour la télévision, on est grosso modo à 3 milliards, donc c'est une recette qui est flat. Mais à un moment où ces acteurs de la télévision traditionnelle doivent investir technologiquement d'abord pour aller chercher les publics là où ils sont. C'est-à-dire, si on veut toucher tous les Français, quelle que soit leur tranche d'âge, eh bien, il faut utiliser les vecteurs qu'ils utilisent. La télévision traditionnelle, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la TNT, elle ne couvre plus la totalité des Français aujourd'hui. Donc,
il faut investir,
il faut être présent sur les plateformes, il faut inventer de nouveaux formats.
Mais avec des revenus qui sont stagnants.
Et avec des revenus qui sont stagnants.
Il y a Thierry Moreau, que vous connaissez sûrement, qui s'intéresse beaucoup aux questions que nous évoquons, qui est un habitué de cette chaîne, qui vient souvent dans l'hebdo Etienne, qui est un streamer, Thierry aussi, qui stream.
Hein. Que je salue.
Voilà. Et Thierry qui nous dit, le gâteau publicitaire n'est pas extensible.
Donc c'est un
vrai défi, ça.
C'est un peu déstabilisant pour les acteurs de l'audiovisuel, qui ont en face d'eux des acteurs très puissants. Les plateformes de streaming, il faut voir l'enjeu financier. Netflix, l'année dernière, c'est 17 milliards de dollars d'investis dans la production cinéma et audiovisuel. Disney, c'est 30 milliards. Pour donner une comparaison, Canal+, qui est le premier financeur du cinéma, actuellement, donc c'est 200 millions d'euros par an consacrés au cinéma. Donc vous voyez, 17 milliards Netflix, 30 milliards Disney, 200 millions pour Canal+.
Mais c'est un, pardon pour Canal, mais du coup, c'est un nain en termes d'investissement par rapport à ces géants que vous évoquez. Quoi.
Exactement. Et donc, c'est une période où il faut qu'on soit très attentif à accompagner nos acteurs, publics comme privés, pour les aider à faire face à cette évolution des usages, à cette évolution de la concurrence, à cette évolution aussi des modes de diffusion. Si vous allez acheter un poste de télé aujourd'hui, c'est plus du tout ce que c'était il y a encore quelques années. Aujourd'hui, vous achetez un écran qui est en fait un magasin d'applications. Il est comme votre smartphone. Et cet écran, fabriqué en Asie pour la plupart, il va plutôt privilégier quand vous vous connectez sur des offres payantes. Donc,
Avec des télécommandes même, où on voit arriver...
Une télécommande qui est un simple pointeur qui vous permet de choisir une application.
Et parfois même avec les boutons des applications, des
plateformes.
Et
donc vous retrouvez plus spontanément la 1, la 2, la 3, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est des sujets qui viennent bien évidemment percuter le secteur. Et donc pour l'ARCOM, l'un des enjeux très importants, c'est comment on accompagne nos acteurs. Et la création de l'ARCOM, c'est bien cette idée, quand je disais qu'on n'est plus le CSA de papa, c'est qu'il faut bien évidemment aider nos acteurs publics, privés,
et comment vous
à
faites
faire
ça
face à cette évolution.
Parce que là, vous décrivez quand même un secteur qui est en crise, en fait, qui voit le nombre de téléspectateurs...
Qui est en mutation,
mais qui voit quand même le nombre de téléspectateurs baisser, le volume d'écoute baisser, les recettes publicitaires stagner, voire diminuer. Donc, moi, je ne veux bien pas parler de crise, mais c'est une situation difficile. Comment vous accompagnez
D'abord, il faut nommer les choses. Ça fait partie de notre métier, hein, je crois. Donc, on a une direction des études à l'ARCOM qui fait des études absolument remarquables, qu'on publie régulièrement sur les évolutions des usages, sur les évolutions du secteur, sur l'analyse économique du secteur, pour avoir une vision juste de ce qui se passe.
C'est de la réflexion.
Ensuite, c'est bien évidemment par nos avis, par l'expression que nous pouvons avoir vis-à-vis des pouvoirs publics, de suggérer des évolutions de la réglementation. Viennent de s'ouvrir, comme vous le savez, des états généraux de l'information, qui vont travailler jusqu'à l'été prochain, qui va être l'occasion probablement d'avoir une réflexion globale avec ceux qui les animent, d'entendre un peu tous les acteurs et de voir si nos réglementations ne doivent pas aujourd'hui évoluer. Est-ce que la réglementation sur la publicité telle qu'elle est en vigueur, où on voit bien qu'elle privilégie de fait les acteurs du numérique, est-ce qu'il ne faut pas la corriger ? Je prends un exemple
c'est intéressant.
Qui est intéressant puisqu'on va le vivre dans les mois qui viennent. La promotion que font les grandes surfaces se fait beaucoup par voie de prospectus. Et ces prospectus qu'on trouve dans nos boîtes aux lettres, qui parfois nous énervent d'ailleurs, sur la côte de bœuf dimanche prochain dans mon magasin.
Souvent, on met l'autocollant sur la boîte aux lettres, j'en veux pas. Quoi.
J'en veux pas. Cette publicité-là, elle représente 2 milliards d'euros par an. C'est une somme considérable. Bon, pour des raisons d'environnement, cette publicité va disparaître, mais elle va bien se reporter ailleurs. Cette publicité, elle peut se faire sur le numérique sans difficulté. Elle peut vous suivre très facilement sur les plateformes que j'ai évoquées tout à l'heure. Elle ne peut pas se faire à la télévision parce qu'on a des réglementations qui aujourd'hui encadrent ce type de publicité.
Ça veut dire que les plateformes ont des règles moins strictes d'accès.
Comme disent les technos, il y a une asymétrie réglementaire.
C'est une rupture de concurrence, c'est-à-dire qu'en fait, la concurrence n'est pas...
Il y a une inégalité de situation, et donc ça, on est obligé de le prendre en compte. Et quand je dis qu'il faut accompagner nos acteurs, eh bien, c'est nommer ces situations, les regarder lucidement, et voir si notre réglementation ne doit pas évoluer pour aider nos acteurs. Et ça vaut pour le public comme pour le privé.
Vous savez que dans le chat, il y a des gens qui sont passionnés d'actualité. Et en fait, souvent, le matin, quand on parle d'actualité, moi, je lis les journaux du matin, mais évidemment, l'actualité continue de bouger. Et là, par exemple, depuis plusieurs minutes, des viewers nous parlent d'une actualité dramatique qui serait une fusillade, peut-être un attentat à Bruxelles. Et alors, évidemment, le réflexe du journaliste, c'est de vérifier, de trouver une source d'information fiable. Ici, Le Figaro. Qui, on va voir la source citée par Le Figaro, effectivement, nous dit ce soir qu'une fusillade a éclaté à Bruxelles, au moins 2 morts. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un homme en gilet fluorescent tiré à l'arme-feu en pleine rue. Quelle est la source du Figaro ? Donc ça, c'est important de le chercher. Voilà, selon des informations rapportées par les médias locaux, dont Le Soir, qui est un journal belge. Voilà. Évidemment, on en parle parce que en France, on a tous cette inquiétude en raison de la situation internationale et nationale. Internationale, la crise au Proche-Orient, et national, l'attentat d'Arras. Merci pour les F. Alors, je vais expliquer à notre invité ce que sont ces F un peu étranges qui viennent d'envahir l'écran. C'est un code de Twitch. F, c'est une touche qu'on presse dans un jeu vidéo qui s'appelle Call of Duty pour rendre hommage à quelqu'un qui est décédé, qui est en l'occurrence mort au combat, mais c'est une façon de rendre hommage aux victimes de ce qui pourrait être un attentat chez nos voisins belges. Merci à ceux qui nous ont donné l'info. Alors, parfois, je me transforme en fil d'info comme ça. Mais en fait, bon, les viewers qui sont autant passionnés d'infos que moi ne me donnent pas toutes les infos, mais quand ils voient une information essentielle, et celle-ci semble l'être, ils nous informent. Twitch, c'est aussi ça. Hop, merci les amis pour cette info. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, pardon, le terme n'est pas adéquat, mais l'article du Figaro nous disait que les images tournaient sur les réseaux sociaux. Et on en parlera de ça, puisque ce qui se passe actuellement au Proche-Orient inonde notamment Twitter X d'images qui sont parfois problématiques, qui sont parfois extrêmement violentes. Et tout à l'heure, je vous demanderai si l'ARCOM est compétente pour s'intéresser à ce sujet. Mais restons d'abord sur cette révolution que connaît la télé. Et vous nous disiez à l'instant, avant qu'on évoque l'actualité tragique en Belgique, qu'il y avait quand même une distorsion de concurrence dans l'accès. Et moi, je ne savais pas. Dans l'accès au marché de la publicité, entre les acteurs traditionnels et les nouvelles plateformes.
Voilà. C'est quand vous posiez la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben justement, c'est essayer de corriger ces inégalités de situation. Je prends un exemple, les plateformes de streaming vidéo, donc Netflix, Amazon, Disney, Apple. Ben, pendant longtemps, c'est des plateformes qui étaient installées en dehors du territoire français, mais qui ciblaient le territoire français. Netflix, aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 10 millions d'abonnés en France. Nos chaînes de télévision, elles finançaient sur leur chiffre d'affaires tous les ans la production audiovisuelle, la production cinématographique, mais ces plateformes de streaming, qui pourtant touchaient notre territoire et dans des proportions importantes, ne contribuaient absolument pas. Bon, on a une directive européenne qui est arrivée en 2018, directive services médias audiovisuels, et maintenant Netflix, Disney contribuent comme TF1, comme le service public, comme Canal+, au financement de la production. Voilà un exemple de correction d'une inégalité de situation. Parler de la réglementation sur la publicité, c'est probablement des choses qu'il faut revisiter. Donc voilà, on est en tout cas dans une période, si on veut préserver notre souveraineté culturelle, si on veut préserver nos acteurs nationaux qui portent une information française de qualité à travers des rédactions, qui portent une offre cinématographique et audiovisuelle de qualité, eh bien, il faut que ces acteurs soient solides et donc il faut que les pouvoirs publics les accompagnent. Notre rôle, nous, l'ARCOM, en étant à l'écoute de tous ces acteurs, au contact de leurs difficultés qu'ils évoquent avec nous, c'est d'être aussi leurs ambassadeurs et de dire au pouvoir public, ben là, voilà, il faut être attentif à tel ou tel
point. Et peut-être changer la loi sur tel ou tel.
Probablement, voilà, adapter notre.
Sinon, c'est quoi? Ça veut dire que le risque est grand que demain, en fait, les principaux acteurs de l'offre de divertissement en information en France, ben soit depuis l'étranger et notamment depuis les États-Unis.
Voilà, ce qui est fondamental pour une démocratie, vous y avez fait allusion, Samuel, plusieurs fois, c'est la défense du pluralisme, c'est d'avoir une pluralité d'acteurs, une pluralité de sources et en tout cas une pluralité de sources d'information. L'information, c'est quelque chose qui coûte cher. Si on veut des rédactions professionnelles, ben il faut avoir des journalistes bien formés qui assurent bien leur mission, il faut avoir des correspondants à l'étranger. C'est une charge pour les médias audiovisuels. Et donc, pour qu'ils puissent supporter ça, il faut qu'économiquement, ils soient dans la situation de le faire. Donc, ça veut dire un service public bien financé, ça, c'est la contribution du contribuable. Et puis, pour les acteurs privés, leur donner des conditions économiques qui leur permettent de remplir pleinement leur mission au service de la création, au service de l'information. Et une fois encore, c'est un enjeu de souveraineté qui est important si on veut préserver notre modèle culturel au sens large du terme. Je mets l'information dans le lot. Sinon, on passe sous des influences qui sont des influences étrangères.
Alors, merci aux amis qui souhaitent nous informer plus avant sur la situation à Bruxelles. Ce soir, ce n'est pas un stream d'information, mais je suis sensible à votre volonté de nous informer. Donc, vous pouvez, si l'information dont nous avons parlé sur la Belgique évolue, tu peux nous donner des infos, mais ça n'est pas l'objet du stream de ce soir. Mais merci de votre sollicitude. Moi, une question que je me pose sur le sujet que vous venez d'évoquer. Vous savez qu'une grande partie de ce public-là, dont une majorité importante a entre 18 et 30 ans, ne regarde plus la télé ou beaucoup moins qu'avant, n'écoute pas la radio ou beaucoup moins avant, et lit peu les journaux ou alors beaucoup moins d'avant. Est-ce que c'est uniquement parce que la tentation a été est grande, très forte, créé par ces nouvelles plateformes, ces réseaux sociaux, d'aller voir ailleurs parce qu'il s'y passe de belles choses, ou est-ce que ces médias traditionnels n'ont pas aussi une certaine forme de responsabilité dans une offre inadaptée à ce public et une évolution pas assez rapide vers de nouveaux formats, de nouvelles offres? Quel est votre sentiment là-dessus, vous qui justement cherchez à les accompagner?
Oui, moi je pense que l'usage montre bien qu'il y a un décalage entre l'offre que les médias traditionnels pouvaient proposer aux téléspectateurs et puis les attentes que les nouveaux outils qui font partie de notre vie quotidienne, nous tous, nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs, nous permettaient d'accéder. Le fait que maintenant 85%, un petit peu plus de 85% des téléviseurs soient connectés à Internet, ça nous permet aussi d'avoir accès à une offre beaucoup plus élargie, beaucoup plus considérable que ces médias traditionnels. Et le fait d'avoir des acteurs comme YouTube qui permettent des formes d'expression radicalement différentes.
C'est aussi une richesse.
C'est une richesse formidable. C'est des formats qui sont différents, souvent des formats un peu plus courts. Là, l'émission à laquelle je participe avec vous a l'avantage d'être un peu plus longue et de permettre d'aller un peu au fond des choses.
C'est quelque chose que j'aime bien sur ce format.
Ça permet aussi de nouvelles formes de création. Probablement que les médias traditionnels ont tardé à prendre un virage.
Il y a un petit retard à l'allumage.
Un petit retard à l'allumage. Et maintenant, donc, tout l'enjeu pour eux, c'est de rattraper ce retard en d'un côté faisant les investissements techniques indispensables pour aller chercher les publics là où ils sont, sur les vecteurs qu'ils utilisent. C'est vrai pour la radio. Radio France, par exemple, déploie une stratégie numérique très active avec des régimes d'application qui permettent de toucher les publics. Mais c'est vrai pour France Télévisions, c'est vrai maintenant pour TF1. C'est ce qu'on appelle aussi la plateformisation. Tous sont en train de déployer des contenus sur des plateformes pour espérer toucher un public plus large qu'il ne faisait avec la télévision hertzienne traditionnelle.
Et on a vu la semaine dernière France Télévisions annoncer par son numéro 2, Stéphane Sidbon-Gomez, un plan
prioritaire
ambitieux
et très ambitieux pour toucher des publics plus jeunes, puisque c'est une question vitale, j'allais dire, pour le service public au regard de la moyenne d'âge.
À la fois sur les antennes traditionnelles. On a vu par exemple l'annonce de l'arrivée d'Hugo Décrypte sur France 2.
Tout à fait.
Et aussi, alors même si ça reste à préciser, l'arrivée de France Télévisions sur les nouveaux écrans, sur les nouveaux supports, de façon encore plus importante qu'aujourd'hui. Il y a une vraie redistribution de flux qui est annoncée, voilà, à budget constant. Hein, ce n'est pas de nouveaux investissements. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'argent, en gros, nous a dit Stéphane Sidbon-Gomez, qui va être pris sur la télé traditionnelle d'aujourd'hui par France Télévisions, sur des programmes qui existent et qui vont être pris là pour être mis sur... notamment le numérique.
Oui, c'est pour ça que j'utilisais tout à l'heure le mot de révolution. Je crois que c'est vraiment ce qui se passe. Il faut que les médias traditionnels s'adaptent à un environnement qui est différent. C'est vrai pour la radio de la même façon.
Oui, j'allais vous poser la question.
Les usages changent. À partir du moment où vous avez des plateformes de streaming musical qui vous offrent, pour un prix relativement raisonnable, une offre universelle, c'est vrai qu'il y a des modèles de radio qui doivent nécessairement s'adapter à cette réalité qui est celle de l'usage.
Et comment ils font les radios, j'allais dire, concrètement aujourd'hui pour s'adapter à cette nouvelle donne? Parce que la télé, bon, moi, je connais un peu mieux aujourd'hui, mais il y a des stratégies qui ont été mises en place, il y a des réussites déjà
Alors la radio, elle est elle aussi dans une phase d'évolution dans ses usages. Je prends un exemple qui maintenant occupe une place très importante à la radio, c'est le podcast.
Oui, bien sûr.
Donc à la fois le podcast en replay, donc qui nous permet d'entendre des programmes qu'on n'a pas pu entendre au moment de sa diffusion, mais qu'on va entendre au moment de son choix, ou ce qu'on appelle des podcasts natifs, qui sont des programmes conçus spécifiquement par tel ou tel média radiophonique, à finalité de ces... Et ça, c'est de nouveaux usages qui font partie, effectivement, d'une redéfinition des stratégies. Non. C'est aussi, pour la radio, maintenant, s'investir dans la radio numérique, ce qu'on appelle le DAB, ouais, qui est en train de se déployer en France. C'est un dossier qui nous occupe beaucoup à l'ARCOM. On couvre maintenant un petit peu plus de 50% de la population par le biais de cette diffusion en DAB. On devrait atteindre 60% à la fin de l'année. Toutes les voitures qui sortent depuis 3 ans sont nécessairement équipées d'un autoradio qui permet de capter cette radio numérique. Une radio qui donne une qualité de son supérieure, qui est plus confortable en mobilité, parce que le signal vous suit automatiquement, donc la fréquence ne grésille plus comme
on perd plus le signal.
On perd plus le signal quand on est sur une autoroute, par exemple, ça vous suit tout le long. Et puis, sur votre poste de radio, s'il a un écran, ça vous permet d'avoir des informations, la pochette de disque, le nom...
En même temps, je vous montre un petit peu comment fonctionne l'interface. C'est intéressant, vous voyez. Donc là, le chat, vous l'avez compris, ça défile, on peut le geler, on peut remonter dedans. Et on peut même cliquer sur le pseudo d'un viewer et accéder à son historique. Par exemple, quand... là, on a Jugil très gentiment qui nous dit... à 21h02, si un gentil modo peut glisser la question que j'ai posée. Alors, je remonte dans l'historique.
C'est une bonne question.
Et cette question, elle est intéressante. Je la lis pour ceux qui ne l'ont pas sous les yeux.
C'est le démarrage tardif des horaires.
Ouais, pourrait-on revoir un jour des programmes de Prime commencer à 20h30 et 20h45 et non plus à 21h30 est-ce qu'on peut lire ma question, s'il vous plaît? Tout le monde se la pose. Je pense que c'est une question que se posent beaucoup de téléspectateurs.
C'est une question que se posent beaucoup de téléspectateurs.
Qu'est-ce qui s'est passé avec ces Prime qui démarrent plus en plus tard?
En toute franchise, c'est l'un des sujets sur lesquels on est régulièrement saisi.
Alors, oui.
Alors la réglementation, c'est que quand une chaîne de télévision annonce, puisqu'elle est tenue d'annoncer ses programmes à l'avance, annonce un horaire de programme, elle est censée respecter cet horaire de programme. Donc si elle dit que ça commence à 21h, il faut que ça commence
et
à 21h.
Et en fait, elle ne le respecte pas, en fait.
Donc c'est un sujet sur lequel on est amené à intervenir assez régulièrement. On réunit les chaînes de télévision pour leur rappeler cette obligation. Mais c'est vrai qu'on a eu une dérive progressive. Alors en même temps, ce qui change un peu la donne sur ces sujets-là, c'est les modes de consommation, c'est les usages qui évoluent là aussi, puisque
une grande part
de programmes sont maintenant consommés en réalité en replay.
Oui. Sans verser la nostalgie, un Prime, un film sympa ou une émission qui commençait à 20h30, après le dîner, familialement par exemple, c'était sympa. Et puis c'est beau la télévision en replay, mais la télévision en direct, c'est aussi un moment de partage avec ceux qui sont dans le foyer autour de vous quand vous regardez le même programme. C'est un programme dont vous discutez le lendemain avec des amis, avec des collègues. Si chacun regarde son replay, le moment d'échange, il n'est pas le même.
C'est une bonne remarque, et je vois ce chat avec beaucoup d'intérêt.
Ça
va me donner une stimulation supplémentaire dès demain pour revenir sur ce sujet. C'est un sujet vraiment récurrent.
Pourquoi d'ailleurs c'est de plus en plus tard? C'est les écrans pubs? C'est pour dire les choses ou...
Alors, je pense que les écrans pubs sur la partie privée peuvent expliquer en partie cela, en effet. Mais c'est un sujet, en tout cas c'est un sujet récurrent.
Ça, c'est Olivier qui dit, c'est vrai, c'est un rendez-vous qui rythmait la vie de famille. Moi, l'une des raisons pour lesquelles je regarde moins la télévision aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement c'est trop tard en fait.
C'est trop tard. Non, mais c'est une observation qui est...
Vous avez vu, les commentaires sont unanimes.
Oui, les commentaires sont unanimes. Voilà une alerte en direct pour le président de l'ARCOM. Écoutez, merci de me le rappeler.
Mais les téléspectateurs vous en parlent, ça?
Oui, c'est un sujet sur lequel on a des saisines tout à fait régulières, en effet. Oui.
Alors là, je vous montre l'interface. Vous voyez, il y a plein de petits boutons. Par exemple, on peut faire un raid, j'en ai parlé. On peut créer des sondages. Par exemple, là, on aurait pu créer un sondage sur cette question. Alors, c'est des sondages...
Là, je vois le résultat en direct.
Voilà. Il y a Thierry Moreau qui nous dit que sur le sujet qu'on vient d'évoquer, Thierry, ce mouvement a été initié par le glissement des access qui se termine de plus en plus tard pour gagner les téléspectateurs. Ah, c'est intéressant. Et puis là, vous avez un autre feed ici, d'autres infos. Vous savez, les pseudos qui s'affichent là, ce sont des gens qui s'abonnent à la chaîne pour soutenir le créateur de contenu dans ses initiatives. Alors moi, ça m'amuse parce que d'abord, je remercie les gens qui le font. Merci à vous. Et puis, on est dans le domaine du pseudonymat. Et donc avec des pseudonymes qui parfois sont amusants, bon, Alex Papy, Kirill, Jean-Christophe, là c'est assez classique. Hein. Parfois on a des surprises qu'on ne peut même pas lire, tellement elles sont un peu... Voilà, donc en tout cas merci à vous, Trigger, Hollywood, Celsius, merci pour le soutien. Je vais prendre des questions dans le chat à la volée, et puis on va parler bien sûr du numérique et l'internet, puisqu'on est ici sur une plateforme numérique, puisque L'ARCOM se penche aussi sur ces questions, bien sûr. Donc là, on est beaucoup sur les horaires parce qu'on vient de lancer le débat, bien sûr. C'est ce que dit Mounet Mich. Bonsoir Samuel, bonsoir Président Roch Olivier. La télé était un moment partagé par une famille et c'est devenu un média qui isole. Alors, c'est pas que la télé qui fait ça. C'est la multiplicité des écrans.
C'est un peu la multiplication des écrans et le fait que, comme je le disais tout à l'heure, on consomme de façon beaucoup plus individuelle.
Oui.
On peut regarder. Papa peut regarder quelque chose au salon, maman autre chose, le fils ou la fille autre chose dans sa chambre. Donc c'est le fait qu'on a des consommations qui sont beaucoup plus individualisées aujourd'hui. En même temps, je crois que c'est important de le souligner, la télé n'est pas morte, loin de là. Et on a quand même des événements fédérateurs et la télévision offre ça. La Coupe du Monde de rugby, le premier match entre la France et la Nouvelle-Zélande.
Ne parlons pas du dernier.
Je parle du premier.
Vous avez bien raison.
Vous avez bien raison. 15 millions de téléspectateurs. Les rendez-vous du 20h sur TF1, sur la 2,
très puissantes.
C'est en moyenne 5 millions chacun. Donc ça fait 10 millions de téléspectateurs le soir pour ces deux journaux. Donc la télévision garde cette dimension fédératrice, en particulier des événements sportifs, notamment. Des événements de vie politique, par exemple. Ouais. Une conférence de presse exceptionnelle du chef de l'État, le débat du second tour de l'élection présidentielle.
Certains téléfilms.
Des téléfilms, aussi. Notamment, aussi. Donc la télévision, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, a encore de beaux restes, et elle peut garder cette dimension fédératrice tout de même. Ouais. Mais la tendance, c'est vrai, c'est des consommations beaucoup plus individualisées et beaucoup plus par génération. C'est ça l'élément nouveau du paysage dans lequel on est rentré.
Vous n'avez pas une boule de cristal, bien sûr, mais est-ce que vous voyez demain la télévision classique prendre le virage des nouvelles consommations et finalement non seulement ne pas perdre des téléspectateurs, que ce soit en direct ou en replay, mais en gagner, avec une stratégie offensive sur ces nouvelles plateformes, ou est-ce qu'elle va être engagée malgré elle dans un très lent peut-être, mais processus d'affaiblissement aux dépens de tous les nouveaux acteurs du numérique, que ce soit les plateformes ou les réseaux sociaux.
Je pense que l'orientation dans laquelle on est rentré, qui me semble assez inéluctable, c'est cette logique de plateformisation. Et quand on regarde nos acteurs, Canal Plus est devenu, avec MyCanal, une plateforme. C'est à la fois un éditeur et un distributeur qui vous offre un panel de choix de programmes. Et donc la tendance, ça sera de plus en plus à consommer des contenus au moment de son choix. Donc ça, c'est une maîtrise de son temps. Et ça, d'un certain côté, c'est quand même assez formidable. On parlait du podcast tout à l'heure. Samuel, vous êtes un grand sportif. Pouvoir, à l'occasion d'un entraînement, écouter en même temps un podcast qu'on n'a pas eu l'occasion d'entendre à un autre moment de la semaine, c'est aussi un progrès dans nos vies quotidiennes. Donc je crois qu'on ira beaucoup plus vers des opérateurs qui offriront des programmes sur des plateformes qui permettront de choisir une très grande diversité de programmes au moment de son choix.
Un mot des audiences.
Et sur le vecteur de son choix.
Un mot des audiences, je ne sais pas si l'ARCOM s'est saisi de ce sujet et est compétente sur ce sujet. Ici, sur Twitch, on me parle beaucoup des audiences télé, puisqu'on s'intéresse beaucoup aux audiences d'Internet. Vous voyez, tout à l'heure, on est un peu plus d'un millier, on s'approche doucement des 3000 personnes, et merci à vous d'être là. Et le sentiment général qui est souvent exprimé ici, dans ce chat, c'est les audiences télé, c'est bidon. Les chiffres qu'on vient d'évoquer là, ils sont impressionnants. On a parlé de 17 millions sur le rugby, 5 millions, non pas en pic, non pas de téléspectateurs uniques, mais 5 millions de téléspectateurs en moyenne sur un JT par exemple. Et quand j'évoque ces chiffres, j'ai un public, ça va faire rire Thierry Moreau ce sujet, qui est très sceptique et qui dit oui, on sait comment c'est calculé, c'est médiamétrie, c'est totalement bidon. Votre regard là-dessus, est-ce que les chiffres de médiamétrie sont fiables? Est-ce que c'est une bonne mesure d'audience? Est-ce que quand on dit il y a 5 millions de Français en moyenne qui regardent un JT, est-ce que c'est un vrai chiffre ou pas? Parce que ça, c'est vraiment une question qu'on me pose souvent.
Sur la mesure de la télévision, je pense qu'on a des mesures qui sont quand même très, très, très précises, avec des outils technologiques qui permettent à Médiamétrie d'avoir effectivement une mesure très, très tangible et très précise de la consommation et des audiences. Sur la radio, c'est un petit peu différent parce que c'est des campagnes téléphoniques de sondage. Qui se font de façon périodique, donc c'est quand même moins fiable. Vous recevez un coup de fil, Qu'est-ce que vous avez écouté à tel moment? Bon, donc c'est moins précis qu'une mesure technologique avec une puce qui est dans votre poste de radio et qui permet de vous suivre à la trace sur ce que vous avez.
Mais pour revenir à la télé, on est d'accord que le système c'est médiamétrie, donc c'est un certain nombre de foyers qui a un boîtier chez lui,
et qui
relève ce qui est regardé par le foyer. Mais on peut considérer que c'est fiable et que les chiffres qui nous sont donnés.
Oui, je pense qu'on peut considérer que c'est fiable. Alors, il y a des domaines sur lesquels il faut qu'on ait des mesures qui progressent. C'est précisément le streaming, la consommation des plateformes de streaming. C'est des sujets sur lesquels Médiamétrie travaille actuellement.
Et vous aussi,
Et on est bien sûr très articulé avec eux sur ces sujets-là, parce que la mesure des usages est bien évidemment très importante pour avoir une appréciation juste de l'évolution du paysage, de l'évolution des usages et de la façon dont la réglementation doit s'adapter à cette évolution.
Oui, les questions d'audience, ça réveille des passions de débat. Genesis, on parle de 15 000 personnes relevées. Alors, je crois que c'est 15 000 boîtiers, déjà. Donc, ce n'est pas 15 000 personnes, puisque dans un foyer, il n'y a pas forcément une seule personne. En quoi c'est représentatif pour annoncer des dizaines de millions de téléspectateurs? Alors, si je puis me permettre, là, on est sur la science des sondages, si je puis m'exprimer ainsi. On considère qu'à partir de 1 000 personnes interrogées, ça, ce sont les sondages. Après, on peut contester aussi la méthode des sondages. Mais à partir de 1 000 personnes interrogées sur un échantillon représentatif, on peut estimer que le sondage... est relativement fiable. Et là, on parle de 15 000 boîtiers, je crois que c'est le chiffre, hein, vous me corrigez si je dis une bêtise, 15 000 boîtiers, donc plus de personnes encore, et on voit bien qu'on est très 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 au-delà des 1 000 personnes qui sont la base, la limite basse pour avoir un sondage représentatif, donc on est en fait, on est très très au-dessus du chiffre qui permet de faire fonctionner un sondage. Alors, je comprends que ça puisse créer des doutes, mais en fait, c'est toute la réflexion même sur le sondage qui est là.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette mesure, elle est aussi très importante pour les acteurs eux-mêmes, bien évidemment. C'est un instrument de mesure. Alors, pour le service public, c'est un instrument de mesure de la qualité de ses programmes, de l'audience de ses programmes. Pour le privé, c'est un élément central de sa ressource publicitaire.
Bien sûr. Parce que,
bien évidemment, les audiences sont directement corrélées aux tarifs publicitaires qu'ils peuvent pratiquer sur tel ou tel format d'émission.
Je les connais, c'est de là d'où naît la question, parce qu'en gros, ils se disent, comme les intérêts sont gigantesques, les télés n'ont pas intérêt à annoncer, à avouer des audiences qui seraient inférieures à celles annoncées, parce que justement, les enjeux économiques sont trop importants. Mais alors moi, ce que je réponds parfois, c'est oui, mais si ces mesures étaient imparfaites, vous auriez à coup sûr des acteurs de ce milieu qui les dénonceraient, en disant, certes, nous avons de mauvaises audiences, mais c'est parce que la mesure n'est pas bonne.
Ouais.
Or, je n'ai jamais eu vent de M6 ou de je ne sais quelle chaîne qui dirait, ou de Canal ou que sais-je, ou d'une chaîne de la TNT qui aurait du mal à émerger, à se construire, en disant, alors oui, effectivement, nos audiences ne sont pas bonnes, c'est parce que la mesure n'est pas bonne. Bon, c'est un exemple que je prends, je ne sais pas si c'est le bon.
Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les usagers, c'est-à-dire tous les éditeurs de chaînes de télévision, sont au conseil d'administration de Médiamétrie. Et donc, ils ont intérêt, eux aussi, à avoir une mesure fiable pour pouvoir ajuster leur stratégie éditoriale, la nature des programmes qu'ils proposent, de la manière la plus fine au regard des recettes qui sont attendues pour eux.
Et puis, une dernière question sur les audiences. Souvent, on me dit aussi, je l'ai vu dans le chat tout à l'heure, cette question, mais à l'heure du numérique, est-ce qu'on n'aurait pas un moyen plus fin pour regarder, je ne sais pas, via les box par exemple, une mesure plus fine portant non plus sur 15 000 foyers mais sur...
Si, alors le débat se pose en ce moment sur la radio, justement d'avoir un instrument de mesure de la radio plus fiable, notamment au moment où la radio numérique se déploie, puisque pour l'instant cette nouvelle technologie que j'ai évoquée, le DAB est en train de se déployer et qu'il va bien falloir la mesurer de façon efficace, d'avoir un équivalent de ce qu'on fait pour la télévision, donc ces systèmes de puces qui permettent d'avoir une mesure quand même beaucoup plus fine. Mais ça peut se traduire par des heures de vérité un peu douloureuses sur la réalité des audiences.
Radio.
Radio.
Alors attention aux données personnelles, nous dit-on. Qui dit mesure plus fine, oui.
Bah,
bien
en
sûr.
Tout cas, toutes ces questions sont vraiment intéressantes parce que ça peut faire une bonne transition sur le numérique. D'ailleurs, la question des données, dans le numérique, la donnée, c'est le carburant. C'est vraiment c'est le pétrole. Et donc, la maîtrise des données, elle est vraiment essentielle. Alors, sur la protection des données personnelles, ça, je crois qu'on peut rassurer tout le monde, on a quand même une réglementation applicable en France et en Europe qui est extrêmement rigide, extrêmement contraignante.
C'est ce qu'on appelle le RGPD.
C'est ce qu'on appelle le RGPD, avec une autorité indépendante. Donc c'est mes collègues de la CNIL qui assurent ça, qui est extrêmement sévère et qui n'hésite pas à prononcer elle aussi des amendes très importantes.
Bah non, si on s'en, vous avez vu, on s'en félicite dans le chat. Voilà, hein, vive la CNIL, vive le RGPD.
Utilisation abusive de nos données. Mais en tout cas, pour les acteurs de la télévision traditionnelle qui sont dans cette période de révolution que j'ai indiquée, de redéfinition d'une stratégie, ce qui va être très important pour eux, à partir du moment où ils vont commencer à avoir une offre numérique de plus en plus importante, par définition, c'est d'avoir la maîtrise de leurs données. Or, aujourd'hui, ils sont souvent, du fait de leur mode de distribution, par le système des box, hein, je pense notamment, puisqu'ils sont obligés de passer par les fournisseurs d'accès, ils n'ont pas toujours la maîtrise de ces données. Et donc, dans la révolution des usages que j'étais en train d'évoquer, eh bien, la négociation entre les éditeurs de chaînes de télévision et les télécoms va sûrement être très, très vivante, pour employer un euphémisme, comme on dit au Quai d'Orsay, dans les mois et années qui viennent, parce que pour les acteurs de la télévision, maîtriser ces données dans l'univers numérique, c'est essentiel en termes de revenus, en termes de rémunération de leur offre.
Un dernier mot sur les audiences, qu'on parle des audiences des chaînes traditionnelles, mais on ne parle pas des audiences des plateformes. Et j'ai une remarque de François Bayonne dans le chat que je trouve intéressante. Pourquoi les plateformes comme Netflix ou Prime Video ne sont pas soumises à donner leurs audiences comme pour les chaînes de TV? Je vous rappelle qu'effectivement, les Netflix et autres vous donnent, corrigez-moi hein, si je dis Rock Olivier une bêtise, les chiffres qu'ils souhaitent, en disant par exemple, tu es sur telle série, on a eu tel nombre de téléspectateurs, souvent c'est des chiffres cumulés d'ailleurs, voilà. Pas des audiences au sens traditionnel en disant ben voilà, à telle heure, sur notre plateforme ou sur telle série, il y avait autant de personnes. Alors finalement, ce sont les informations différentes qui sont communiquées, qui ne permettent pas la comparaison d'ailleurs. Pourquoi ce n'est pas les mêmes règles pour eux?
Alors c'est vrai que c'est des acteurs américains qui opposent effectivement de façon très générale le secret des affaires sur la maîtrise de leurs données. Je prends un exemple qui était assez intéressant, c'est quand Amazon a commencé à récupérer des droits en matière de sport, et je pense notamment à Roland-Garros,
bien sûr,
a récupéré une partie des lots de retransmission de Roland-Garros, et les programmes nocturnes notamment. C'est un sujet qui a fait débat parce qu'on n'a pas les chiffres, alors que le service public qui retransmettait les matchs traditionnellement dans la journée, ben on a les audiences, et même pour les sportifs eux-mêmes, pour les champions,
On ne sait pas combien de personnes regardaient les matchs sur Amazon.
Exactement.
C'est embêtant.
Et donc c'est quand même une vraie difficulté.
Les sportifs, par exemple, qui jouent ne savent pas combien de personnes vont regarder. On n'a pas les chiffres.
Exactement. Et on a quand même besoin de savoir comment sont exposées ces manifestations. Il y en a qui ont accès à ces données. Bon, je pense à la Société des auteurs, par exemple, qui rémunère les auteurs des programmes qui sont diffusés sur Netflix, par exemple. Bon, ben, la consommation.
Mais c'est pas des chiffres publics.
Et c'est pas des chiffres publics, c'est des chiffres qui sont protégés effectivement.
Et les fédérations sportives, quand elles cèdent leurs droits, par exemple, auprès de Roland-Garros, quand la Fédération française de tennis, je suppose que c'est elle qui cède les droits de Roland-Garros à une plateforme, à un moment, elle a envie de savoir aussi si le match il est regardé.
Exactement.
Bon, je suppose qu'elle le sait quand même. Je suppose.
Elle a quand même des données, de même que nous-mêmes, en tant que régulateurs, la loi nous permet d'avoir accès à des données importantes. Et puis, comme le souligne effectivement
Thierry
Moreau dans le chat, il y a actuellement un travail qui est mené par Médiamétrie, en effet, pour avoir une mesure de la consommation. Parce qu'aujourd'hui, on a des données très agrégées. Bon, on sait qu'en moyenne, les plateformes de streaming sont regardées par les foyers français au moins 30 minutes par jour, mais on peut penser voilà, que ces chiffres mériteront d'être affinés.
Précisé,
ça va être très, très intéressant.
Alors Thierry dit, à partir de la fin de l'année ou courant 2024, normalement, les plateformes, les Netflix, Amazon, seront mesurées par Médiamétrie, avec ou sans leur accord. C'est vrai ça?
Oui, non, c'est tout à fait exact. Médiamétrie est en ce moment en train de travailler sur ce sujet.
C'est pas mal.
Et ça, je crois que c'est important qu'on ait cette transparence sur ces
données. Ça va provoquer des débats, ça.
Ça va être
c'est pas mal, ça.
Intéressant.
Ça va être intéressant. On va peut-être doucement faire une transition vers le numérique, justement. Je rappelle, ARCOM, l'acronyme veut dire autorisation de régulation.
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Et numérique. Donc là, on va s'intéresser au N. Là, on est sur Twitch, par exemple. Et j'ai une question, je vais essayer de la retrouver en remontant un petit peu sur Twitch. Si je ne la retrouve pas, voilà, c'est celle d'Annette. Merci, Annette. Est-ce que l'ARCOM surveille aussi Twitch ou pas? Est-ce que l'ARCOM est compétente? Parlons que de Twitch pour l'instant, après on va élargir bien sûr, mais puisqu'on est sur Twitch, est-ce que l'ARCOM s'intéresse à Twitch, encadre Twitch, regarde Twitch, surveille Twitch pour reprendre le mot d'Annette.
Alors,
non.
La réponse est non. On ne surveille pas, et c'est l'occasion pour moi, c'est effectivement une très bonne transition pour dire que ce qui est en train de se dessiner sous nos yeux, ce qui est en train de se mettre en place, cette régulation des grands acteurs du numérique, elle se met en place sur des bases qui sont obligatoirement très différentes de celles qui sont en vigueur pour l'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est un monde fini, si j'ose dire. Il y a un nombre d'acteurs qui est limité. Et quand vous nous alertez sur un programme, on est encore en situation physique de pouvoir revisionner la totalité des programmes sur lesquels on est alerté sans difficulté, parce que le volume de ces programmes est contenu. Sur les acteurs du numérique, on est dans un autre monde. Ce sont des centaines de millions de contenus qui sont brassés chaque seconde de façon mondialisée. Et donc, même si l'ARCOM était un Big Brother très très puissant, il ne pourrait pas, par nature, aller contrôler chacun des contenus individuels.
Toutes les chaînes YouTube,
sur l'ensemble
toutes
des
les chaînes Twitch,
numérique,
tous les comptes TikTok.
Ce serait totalement inconcevable. Ouais. Et donc, la régulation qui se met en place, qui est une régulation européenne, et je voudrais dire d'ailleurs de ce point de vue-là, qu'on peut être fier, je crois, d'être sur un continent qui, le premier, essaye d'ouvrir la voie d'une régulation qui soit à la fois respectueuse d'une liberté fondamentale à laquelle on est très cher sur notre continent, la liberté d'expression, et en même temps qui s'attache à répondre à une demande qui exprime toutes les nations européennes et au-delà de l'Europe de protection des publics. Pourquoi on a cette évolution réglementaire en Europe?
C'est notamment le DSA évoqué par MMG.
C'est le DSA, hein, c'est le fameux DSA qui est rentré en vigueur donc pour une première étape le 25 août dernier. Digital Services Act, donc règlement sur les services numériques européens, et qui est une régulation justement qui essaye de trouver un juste équilibre entre liberté et protection des publics. Donc c'est pas le modèle chinois. Ne fait pas un dessin de régulation.
C'est un mode de régulation, on va dire, très autoritaire, enfin très...
Musclé.
Voilà.
Musclé.
Hein, okay, ouais.
C'est pas le modèle américain non plus où prime la liberté sur la protection des publics. C'est un modèle qui se veut équilibré entre les deux. Et qu'est-ce que dit ce règlement, finalement? Pour essayer de l'expliquer simplement, parce que c'est un texte assez volumineux.
Oui.
C'est écrit en volapük européen, donc il faut le digérer, il faut arriver à le lire.
Même les articles censés vulgariser ça, je ne les ai pas toujours très compris. C'est un document
très volumineux.
Ouais.
Pour faire simple, c'est un texte qui dit à ces grands acteurs du numérique, vous devez lutter contre les contenus illicites. Donc moi, Europe, je vous demande que sur mon continent... vous éliminez les contenus illicites. C'est quand même le moins qu'on puisse leur demander. Ce qui est interdit par la loi européenne ou la loi des États qui composent l'Union européenne, ce qui est interdit dans le monde physique, eh bien, doit se traduire, bien sûr, dans le monde numérique. Et vous devez, c'est ce que demande le règlement, déployer des outils d'intelligence artificielle, des outils de modération humaine pour lutter contre ces contenus illicites. Et pour m'assurer que vous le faites, je vous impose une série de contraintes, une série d'obligations. D'abord, chacune de ces plateformes doit elle-même évaluer ce qu'on appelle les risques systémiques auxquels sa plateforme peut être exposée. Donc elle doit analyser au regard de ce qu'elle observe sur les utilisateurs de sa plateforme, les risques auxquels la plateforme
est confrontée.
Et elle doit mettre en œuvre les réponses appropriées. Cette évaluation, elle sera soumise tous les ans à un contrôle extérieur, un audit extérieur, un peu comme un commissaire aux comptes contrôle les comptes d'une entreprise
mené,
tous les ans.
Mené par qui ?
Mené par des entreprises extérieures,
mandatées,
spécialisées, que la plateforme, bien évidemment, devra rémunérer,
okay,
mais qui offre toute garantie d'indépendance, comme un commissaire aux comptes dans une entreprise, okay, contrôle la comptabilité d'une entreprise pour s'assurer que ses comptes sont fiables.
Là, on est au début de ça, parce que le DSA, il
est
pas très vieux.
On est au début, on va y revenir. Ensuite, les données de ces plateformes devront être accessibles aux universitaires, aux laboratoires de recherche, qui pourront faire des analyses à partir des données, bien sûr, publiques, puisqu'on est dans les règles du RGPD qu'on a évoquées.
Y compris sur les algorithmes. Très important, ça.
Pourquoi, sur ma plateforme, tel type de contenu est valorisé et pas tel autre? Voilà, donc les chercheurs vont pouvoir avoir ces données. Troisième élément, la société civile est impliquée dans ce règlement, puisqu'il y a une notion très importante qui est mise en valeur par le règlement, c'est ce qu'on appelle les signaleurs de confiance, qui vont être désignés par les régulateurs. Et ces signaleurs de confiance, donc c'est notamment des associations, je pense à des associations de protection de l'enfance, par exemple, ou des mineurs. Une association très active en France, il s'appelle e-Enfance, qui travaille beaucoup dans ce domaine depuis des années. Eh bien, les contenus qui seront signalés par ces signaleurs de confiance à la plateforme devront être traités de façon prioritaire. Donc la société civile sera impliquée dans la mise en œuvre. Et puis surtout, il y aura un régulateur, la Commission européenne pour les très grandes plateformes, les autorités nationales de chaque pays pour les plateformes de taille un peu plus petite, qui superviseront la mise en œuvre du règlement et qui disposeront d'un pouvoir de sanction très important, puisque on pourra prononcer des amendes qui iront jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme. Et donc là, on est au début de l'histoire. Vous avez vu que la semaine dernière, Thierry Breton s'est manifesté auprès d'Elon Musk, de Mark Zuckerberg et également de TikTok.
Concernant ce
qui se passe en ce moment au Proche-Orient, on voit bien qu'il y a une série de contenus qui circulent en ce moment qui ne sont pas conformes au DSA et donc ouvre une enquête en ce moment sur
des images extrêmement violentes. Des images dont la véracité est interrogée.
Exactement.
C'est ça, hein ?
Exactement.
On parle de fake news, de désinformation d'extrême violence.
Exactement. Alors voilà, on peut se dire, mais c'est pas très rapide, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on est au début de l'histoire. La régulation audiovisuelle dont on a parlé depuis le début de notre échange, elle remonte au début des années 80, donc il y a une très forte expérience, le régulateur a une forte expérience. Voilà, alors on peut dire que l'ARCOM en fait pas assez ou en fait trop, ça dépend du point de vue où on se place, mais enfin la régulation audiovisuelle fonctionne, voilà, nos contenus audiovisuels sont maîtrisés. Là, on est tout début de l'histoire, et donc ça va prendre certainement un petit peu de temps. Mais ce que je voudrais quand même dire à cette occasion, c'est pour échanger beaucoup avec ces plateformes depuis 5 ans, on les pratique quotidiennement, l'ARCOM s'est beaucoup adapté à ces nouvelles missions, et donc on les voit très souvent, on voit très souvent les équipes américaines quand elles viennent en Europe. C'est d'abord, ma première observation, ce serait de dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tous ces outils dont on parle, toutes ces plateformes, elles nous sont extraordinairement utiles dans nos vies quotidiennes. Twitch, sur lequel nous sommes ce soir, c'est un outil formidable. Ce que vous faites...
C'est une agora.
C'est incroyable.
C'est un créateur de liens.
C'est un échange avec un retour immédiat. Donc c'est un élément d'accès au savoir, d'accès à la connaissance, de partage, un élément de démocratie. Un phénomène comme MeToo n'aurait probablement pas pu voir le jour sans les réseaux sociaux. Les printemps arabes n'auraient probablement pas pu le voir. Dans des pays qui sont très contrôlés, les réseaux sociaux sont aussi des vecteurs d'expression démocratique. Donc ce sont des outils très utiles. Bien sûr, il y a des excès. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une régulation. Parce que ce qu'on a vu toutes ces dernières années, c'est que l'autorégulation ne fonctionnait pas. De laisser ces plateformes faire leur police elles-mêmes, eh bien, on a vu ce que ça donnait. On a vu ce que ça a donné sur nos données personnelles. Cambridge Analytica, qui a été un scandale incroyable, où tout le monde a découvert tout d'un coup qu'on utilisait nos données pour faire de l'argent, sans qu'on le sache nous-mêmes. Bon, il a fallu que les plateformes s'y adaptent. Ce qui s'est passé à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, il y a quelques années, où il y a eu ce massacre abominable dans une mosquée, plus de 50 morts, filmé en direct par le terroriste, retransmis pendant 17 minutes sur Facebook.
C'était sur Facebook, quoi.
Avant que Facebook ne réagisse. Mmh. C'est des choses qui sont inacceptables, qui sont intolérables. Et donc l'autorégulation, ce n'était pas possible. Et donc il faut qu'il y ait un cadre juridique qui s'applique. C'est ce que l'Europe fait. Maintenant, ça va être un art d'exécution. Ça va sûrement prendre un petit peu de temps. Mais vous voyez que l'Europe, en tout cas la semaine dernière, a réagi tout de suite, sans tarder. Nous sommes nous-mêmes articulés avec la Commission européenne pour leur faire part de nos observations. Et je suis sûr qu'on va progresser. Parce que c'est des plateformes qui sont elles-mêmes en mouvement. Elles sont soumises à un très fort risque réputationnel. On peut changer de plateforme, et ça arrive. Ça arrive qu'un consommateur, tout d'un coup, abandonne une plateforme et aille sur une autre s'il ne se sent pas en confort, en confiance sur cette plateforme. Et donc, elles se mettent en mouvement.
Mais le poids politique, économique de l'Union européenne et les nouvelles règles édictées par l'Union européenne, le DSA.
L'Europe, c'est la bonne taille, si vous voulez, parce que c'est à l'échelle d'un continent.
On est entendu, on est écouté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les acteurs dont on parle vont effectivement.
C'est des acteurs qui sont, ouais. qui sont durs en affaires, c'est-à-dire tant que la réglementation est en phase d'élaboration. Ça, c'est sûr qu'ils défendent leurs intérêts pied à pied. Mais une fois
que la règle est établie...
Une fois, ces acteurs américains, ils sont très légalistes et le droit est le droit. Alors, il y aura peut-être du contentieux devant les juridictions européennes.
Après, c'est un marché, et un marché avec ses règles, et donc on le...
Quand la protection des données s'applique en Europe, eh bien, elle s'applique en Europe. Et si elle ne s'applique pas, eh bien, ces acteurs prennent des sanctions. Quand le droit de la concurrence européen s'applique, il s'applique. Et quand la Commission européenne prononce des sanctions parce qu'il y a une atteinte au droit de la concurrence... ces acteurs sont bien obligés de s'adapter. Ce sera la même chose avec le DSA. Donc voilà, moi je veux avoir un regard de confiance et en me disant qu'on gagnera tous à avoir un Internet plus sûr et un Internet de confiance où ces excès, qui sont des excès mais qui ne doivent pas, une fois encore je le redis, jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faudrait pas condamner les outils simplement parce qu'on a des excès qui s'expriment ici ou là. Il faut trouver la bonne réponse à ces excès. On parlera probablement un peu du volet éducatif parce qu'il y a le volet coercitif, mais il y a certainement aussi un volet éducatif qui est important dans ce dossier dont on parle.
Et s'il nous reste un petit peu de temps tout à l'heure, j'aimerais aussi qu'on a parlé d'images violentes, par exemple, à l'occasion du conflit au Proche-Orient. Il y a aussi la question dont on a beaucoup parlé, notamment avec un rapport sénatorial, je crois, sur l'exposition des mineurs et notamment des jeunes enfants aux images pornographiques et notamment violentes en France. Je voudrais savoir si l'ARCOM a travaillé là-dessus et est compétente sur ce sujet. Une question très Twitch de François Bayonne. Que pensez-vous du React sur Twitch? Sur Twitch, en France et partout dans le monde, mais en France notamment, le React, c'est une pratique où on s'empare d'un programme qui peut être un programme de télé, on le diffuse sur sa chaîne, comme si à la place de nous, là, il y avait, je ne sais pas, Plus belle la vie ou que sais-je, une émission de divertissement ou un programme. On le commente, on en fait une autre émission, c'est ce qu'on appelle le React. Le plus souvent jusqu'ici dans une zone grise où le streamer ne se pose pas tellement la question des droits, notamment des droits d'auteur liés à ce programme. Est-ce qu'il y a une réflexion en cours là-dessus ou pas? Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui est prévue sur ces sujets qui sont des sujets sensibles sur Twitch, je pense?
Alors écoutez, il y a plusieurs choses dans...
Vous connaissez ce phénomène du React? On vous en a parlé déjà?
Oui, on m'en a parlé effectivement à plusieurs reprises.
Des chaînes de télé peut-être?
Et des chaînes de télé, voilà, exactement. Alors vous avez abordé déjà quand même plusieurs points sur lesquels je voulais un tout petit peu m'arrêter. Avant, je voulais quand même revenir 2 secondes, si vous permettez, sur des plateformes qui sont tout de même coopératives et qui sont en mouvement. C'est quand même ça que je voulais souligner. Je voulais en donner une illustration, c'est dans les processus électoraux. On l'a évoqué tout à l'heure, quand on est en période électorale, l'ARCOM a un rôle très important qui est de vérifier l'équilibre des temps de parole entre les uns et les autres et d'être attentif, bien évidemment, à la manipulation de l'information. Il y a des textes de loi propres à la France en la matière. Si je compare l'élection présidentielle et législative de 2022, donc celle de l'année dernière, à celle de 2017, en 2022, on a réuni toutes les plateformes au mois de janvier, en début du processus électoral, on les a réunies tous les 15 jours, et chaque fois qu'on a pu être confronté à des questions de manipulation d'informations liées au processus électoral, les plateformes ont toujours été très réactives et ont fait le nécessaire, et c'est une élection qui s'est très bien placée. En 2017, vous vous rappelez qu'on avait eu les Macron leaks, on avait eu des phénomènes d'ingérence dans le processus électoral. Donc on a bien vu quand même en 5 ans que ces plateformes, fortes de ce qui s'est passé aux élections américaines, les élections générales en Allemagne, les processus électoraux dans plusieurs pays d'Europe, voilà, savent maintenant bien et mieux traiter ces phénomènes. Donc c'est des plateformes qui sont en évolution, elles ont des outils d'intelligence artificielle qui offrent aujourd'hui des perspectives pour modérer les contenus efficace.
Pourtant, quand on voit une...
On sait très bien éliminer les contenus pédopornographiques, tous les contenus d'incitation au terrorisme, bien évidemment, qui sont couverts par des réglementations spécifiques. Donc elles ont beaucoup ces capacités-là. Elles ont aussi les outils de modération humaine. Mais après, et on a encore des excès, je le disais tout à l'heure, on est au début de l'histoire de la régulation. J'espère qu'on va arriver à construire et que ce règlement européen va nous ouvrir un nouvel horizon positif.
Là, on parle des plateformes d'une manière générale. Les réseaux sociaux ont le cas singulier particulier de X / Twitter d'Elon Musk, qui s'est traduit notamment par une baisse très importante, radicale des effectifs de modération, par exemple. Ça, c'est un peu inquiétant. C'est-à-dire, non seulement on a l'impression que la modération ne s'est pas améliorée sur Twix, sur Twitter X, on a toujours du mal à choisir maintenant ces derniers mois. Au contraire, elle s'est détériorée.
Oui, mais alors,
Julien Pin, qui est un spécialiste des questions de debunk sur France Info, me dit qu'actuellement sur Twitter, ce qu'on voit de la crise au Proche-Orient, c'est innommable.
Tout à fait. Mais alors sur Twitter, ça, nous, on l'a absolument constaté. C'est le fait que les équipes de Twitter, les équipes de modération de Twitter, aient été littéralement décimées au moment de la prise de contrôle par Elon Musk. Bien évidemment, totalement déstabiliser la situation. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui soit en situation d'opérer une modération suffisante.
C'est gravissime quand on voit la capacité d'influence de ce réseau social, quand même.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est là où le règlement européen va prendre tout son sens et va pouvoir faire la preuve, en tout cas, on en forme le souhait, de son efficacité. Voilà. Alors, ensuite, on a abordé.
Oui, Thierry nous ramène à la question du React, même si le React est bienveillant. Parce que il faut savoir que c'est vraiment un phénomène intéressant sur Twitch. Parfois, c'est vraiment extrêmement bien fait. Je prends l'exemple d'un streamer qui s'appelle Étoile, qui s'est emparé de Questions pour un champion, qui est un sujet que je connais un petit peu, pour en créer une émission avec une vraie valeur ajoutée. C'est vraiment un autre programme. Donc parfois, c'est très bien fait. C'est bienveillant le plus souvent. D'ailleurs, ce ne sont pas des streamers qui critiquent la télé. C'est intéressant. D'ailleurs, c'est des streamers qui parfois s'emparent d'un programme pour en dire tout le bien qu'ils en pensent et pour partager ce programme avec leur communauté. Mais comme le dit Thierry, il reste la question des droits d'auteur de ceux qui ont créé le programme. Il convient donc de protéger ces droits, même de façon symbolique. Est-ce que vous avez réfléchi à cette question du React sur Twitch? Donc vous nous disiez que ça avait été porté à votre connaissance peut-être par des acteurs de la télévision, et vous en êtes toute cette réflexion aujourd'hui?
Alors c'est des sujets sur lesquels on se penche en ce moment, de même qu'on est en train de se pencher, on a mis sur place une équipe qui travaille spécifiquement là-dessus. J'espère que d'ici la fin de l'année on aura un peu finalisé notre analyse sur les questions d'intelligence artificielle, qui est une autre illustration d'outils qui peuvent être une source de progrès absolument formidable, à la fois pour la création, aussi potentiellement pour l'information, mais qui comporte une zone de risque, et notamment sur l'utilisation sur l'utilisation du droit d'auteur et sur la protection du droit d'auteur. Donc voilà, c'est des domaines qui sont vraiment nouveaux, qui sont liés à ces outils formidables du numérique, qui sont à la fois source de progrès, mais dont il faut qu'on mesure bien les impacts pour voir si on doit, ici ou là, les corriger. La protection du droit d'auteur, pour nous, elle est vraiment centrale, parce que, comme vous le savez, on a une compétence sur la lutte contre le piratage, de façon générale. Et donc, c'est l'occasion pour moi de redire qu'une création bien rémunérée, c'est la condition du maintien d'une création vivante, par définition. Des droits sportifs respectés, c'est l'assurance d'avoir des clubs de sport, y compris des clubs amateurs, bien financés demain. Le piratage, c'est un vol, bien évidemment, et c'est un appauvrissement pour le secteur. Et donc, il faut toujours être attentif à la protection de ces droits-là. Ça fait partie de nos missions.
Et l'ARCOM est compétente pour...
L'ARCOM est compétente sur la lutte contre le piratage, avec des outils qui sont des outils nouveaux depuis la création de l'ARCOM. C'est des outils qui sont vraiment centrés sur le streaming illicite, puisque maintenant le piratage se fait essentiellement par streaming. Quand Adopi avait été créé il y a un peu plus de 10 ans, on était sur des échanges de fichiers individuels, ce qu'on appelait le peer-to-peer, les échanges entre particuliers. Maintenant, ce qu'on cible, c'est des sites de streaming illicites particuliers, et nos outils se révèlent très efficaces. Hein, depuis la création de l'ARCOM, je pense par exemple au piratage en matière sportive, sur lequel on a été beaucoup saisi l'année dernière, nos nouveaux outils nous permettent de réagir très vite et de façon très efficace pour bloquer ces sites de contenu illicite. Et donc, il y a vraiment un avant et un après. Donc ça, c'est encourageant en la matière.
Alors il y a une partie du public de Twitch qui met cet argument en avant, qui est évoqué ici par Cintre de Métal. Le React bienveillant n'est pas un vol, puisque ce programme ne serait pas regardé par ce public sur la plateforme traditionnelle. Ce qui est pas faux, effectivement.
Ce qui est vrai.
Il n'empêche que ça pose la question du droit d'auteur.
Ça pose la question du droit d'auteur, voilà. Mmh. Donc il faut qu'on trouve... C'est de façon générale, l'évolution ou la révolution que j'évoquais tout à l'heure des usages fait qu'il faut qu'on arrive à toujours à s'adapter et à trouver les réponses appropriées pour que les équilibres généraux du secteur, et notamment ceux qui touchent à la juste rémunération des auteurs, soient bien respectés.
Un mot aussi, alors je crois que c'est un rapport qui est sénatorial, qui a été remis il y a quelques temps, sur l'exposition
des mineurs
et parfois très jeunes en France aux images non seulement pornographiques, mais aux images pornographiques violentes. Hein, ce rapport sénatorial, il fait le constat que sur Internet, l'offre d'images pornographiques, d'abord, est de plus en plus abondante en termes de volume, mais aussi avec des images de plus en plus violentes et avec des images dégradantes, en général, d'ailleurs, aux dépens de la femme. Donc le constat de ce rapport était très alarmant. Ce qui pose la question de l'accessibilité à ces images des mineurs. Et alors, on sent, on voit, on constate, on entend une volonté du politique en France d'encadrer ça pour que le mineur ne soit pas exposé, parfois contre son gré d'ailleurs, à ces images en surfant sur Internet. Et on a l'impression que technologiquement, c'est impossible. Que la vérification de l'âge, de l'identité pose plein de questions, qu'il y a toujours un moyen technologique comme un VPN pour contourner. Bref, que le politique ou l'autorité est totalement dépassé pour mettre en vigueur quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord d'ailleurs, c'est protéger les plus jeunes. On en est où de ça? Est-ce qu'il y a un petit peu d'espoir ou est-ce que technologiquement, on ne va pas y arriver?
Alors... plusieurs choses. D'abord pour dire qu'effectivement, on a eu plusieurs rapports sur le sujet récemment. Vous avez évoqué le rapport du Sénat.
Oui.
On a eu le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui a été publié il y a très, très peu de temps.
Oui.
Il y a les études que l'ARCOM elle-même a publiées sur l'exposition des mineurs à ces contenus qui donnent des chiffres qui sont très impressionnants, puisque ce qu'on voit, c'est que la proportion de mineurs qui voient ces contenus ne cesse de progresser et que surtout l'âge ne cesse de diminuer.
Vous voyez que les enfants de 11 ans, 12 ans étaient
dans
exposés...
Dans toutes ces études, il y a un consensus très général pour dire qu'exposer des mineurs si jeunes à ces contenus est tout à fait dommageable. Mmh. Ça leur donne une vision de la sexualité qui, bien évidemment, est très, très biaisée.
Avec des conséquences qui sont mesurées par les chercheurs, parce que
ce
n'est pas anodin. Hein. Dans la construction amoureuse et sexuelle de l'individu, en fait, on voit après dans les comportements futurs des comportements
La relation entre les personnes. Ça donne une image notamment de la femme qui peut être très dégradée. Donc voilà, tout ça c'est maintenant documenté, c'est mesuré et les opinions publiques là aussi sont en attente de faire évoluer les choses. Alors la loi actuelle, qu'est-ce qu'elle dit? Donc c'est une loi qui date de... D'abord c'est le code pénal qui interdit d'exposer des mineurs à des contenus pornographiques. Une loi de 2020, la loi sur les violences conjugales, donc, nous a donné à nous ARCOM une compétence qui nous permet de mettre en demeure les sites qui produisent ces contenus pour adultes, qui ne mettent pas en place un dispositif permettant de s'assurer que la personne qui se connecte est bien majeure. Donc on a la possibilité de les mettre en demeure, et s'ils ne se conforment pas à cette mise en demeure, on peut saisir la justice pour demander le blocage de ces sites. Donc aujourd'hui, la justice est saisie, et on verra comment elle statuera sur le sujet.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez saisi la justice.
On a mis en demeure, les sites n'ont pas bougé, et donc on est allé devant le tribunal judiciaire de Paris, qui a été saisi du sujet, qui pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans le détail des procédures juridiques parce qu'elles sont un petit peu complexes, mais qui pour l'instant a sursis à statuer sur l'affaire en attente d'une décision que doit rendre le Conseil d'État. Et puis par ailleurs, il y a un nouveau texte de loi qui est en cours d'examen au Parlement, qui veut faire évoluer la réglementation et qui veut nous donner à nous, ARCOM, directement le pouvoir de prononcer le blocage du site qui ne se conforme pas à la mise en demeure. Plutôt que de passer par la case tribunal, de demander à l'ARCOM de décider de la mesure de blocage, la décision de l'ARCOM étant elle-même susceptible d'un recours devant la justice.
Mais comment on bloque concrètement un site internet au niveau de la France? Parce que vous n'avez pas le bloqué au niveau mondial, on est d'accord?
Alors c'est C'est effectivement une des difficultés. Vous disiez techniquement, qu'est-ce qu'on doit faire?
Oui.
Alors techniquement, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut aussi protéger les données, puisque la CNIL nous dit, au regard de la nature de ces sites, il ne faut pas que les données de l'utilisateur, les données individuelles, puissent être utilisées. Et on voit bien éventuellement l'usage qui pourrait en être fait s'il y avait un piratage d'un site de ce type avec les données individuelles des usagers. Donc il faut avoir des systèmes qui permettent de contrôler l'âge de la personne, mais par un système de tiers de confiance.
Oui.
Hein, c'est ce qu'on appelle la règle du double anonymat. Donc on donne à un site tiers les éléments qui permettent de s'assurer que la personne est bien majeure, qui vous délivre un certificat en quelque sorte que vous pouvez utiliser pour accéder à la plateforme. Ça, c'est le modèle idéal qui va venir sur le marché, qui n'est pas encore aujourd'hui effectivement pleinement opérationnel. Mais il y a des solutions intermédiaires dégradées que la CNIL accepterait, qui est notamment l'utilisation d'une carte bancaire avec une transaction à 0 euro. Alors, ce n'est pas l'assurance que vous êtes majeur, parce qu'on peut prendre...
On peut emprunter, on peut subtiliser.
La carte de crédit
carte
de papa
ou de
maman. Mais quand même, ça donne une présomption qu'on est majeur. Et les associations de protection de l'enfance, ce qu'elles demandent, ce n'est pas un contrôle à 150%, c'est d'avoir quand même un dispositif qui évite d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, une possibilité d'exposition très simple, en disant simplement bah « oui, j'ai plus de 18 ans et on accède à tous les contenus
Ce qui est la situation actuelle. Là, on a évoqué l'idée de s'identifier, en tout cas de certifier sa majorité, mais vous avez quand même dit un moment qui est très intéressant, qui est que l'ARCOM pourrait demain avoir la capacité à bloquer le site. Je l'entends administrativement parlant, mais techniquement, comment on bloque un site au niveau français ou européen?
Alors,
c'est possible.
Alors, on peut tout à fait le faire en France en s'adressant aux fournisseurs d'accès et
okay.
en demandant de bloquer effectivement la diffusion du site en question. Mais c'est vrai, c'est ce que et la communauté qui nous écoute est très familière de ça. On peut toujours, bien évidemment, contourner des règles de ce type. Un VPN peut permettre, bien évidemment, aussi de contourner ce genre de dispositif. On aura toujours ces problèmes. C'est le dilemme classique entre la cuirasse et l'épée. Hein, avec il y a toujours des inventions. Ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, c'est de trouver une réponse à un phénomène qui est très préoccupant, c'est cette exposition croissante d'enfants de plus en plus jeunes à des contenus qui peuvent, n'hésitons pas à le dire, à traumatiser des enfants et affecter ensuite leur vie d'adulte. Les dispositifs sur lesquels on travaille, les dispositifs sur lesquels travaille le Parlement, ont pour but de répondre à ça. Il ne s'agit pas d'interdire la pornographie en tant que telle, elle est autorisée dans notre pays. Il s'agit une fois encore de trouver des dispositifs qui permettent de protéger les mineurs. Et je suis sûr que le marché va trouver dans les mois qui viennent, parce que c'est une demande mondiale, cette question de protection des mineurs, des outils qui permettront, par un dispositif de double anonymat, de s'assurer, ou par des mécanismes de reconnaissance des traits, hein, sans avoir de la reconnaissance faciale à proprement parler, vous avez des dispositifs qui vous permettent d'avoir une présomption de majorité rien qu'en regardant les traits de la personne.
On me voit, dis bon, voilà, toi t'as l'âge.
La technologie nous offrira sûrement des réponses dans les mois qui viennent.
Quand je pense à tous les sujets qu'on a évoqués déjà, l'accompagnement, l'encadrement, la vérification des programmes en télévision, en radio, ce champ immense qu'on est en train d'évoquer du numérique, et je pense au fait que vous soyez 9 membres de l'ARCOM. Alors,
on n'est pas tout seul, ça. Non,
je sais.
Comme je le disais, voilà.
Je sais, mais c'est gigantesque. Voilà.
Mais c'est ce qui est vraiment formidable, une fois encore, ce qu'on fait est absolument passionnant, parce qu'on est à un moment... D'abord, moi, je suis passionné par ce secteur des médias. On est à un moment de transformation de ce secteur de façon formidable. Et donc, c'est comment on adapte une institution, une autorité à ce nouveau paysage. Moi, c'était la priorité que je m'étais fixée quand je suis arrivé il y a 5 ans. Bah, écoutez, on est en train de franchir des pas de géant. On a créé au sein de l'autorité une direction des plateformes en ligne sur lesquelles on recrute en ce moment. Alors, elle est encore petite, mais enfin, voilà, petit à petit, elle grossit avec de nouvelles compétences. Et j'en profite pour dire que l'ARCOM recrute, elle recrute des nouveaux talents.
Quel profil
c'est des profils multiples. Quand vous traitez avec des plateformes en ligne, si vous voulez avoir un peu de crédibilité, il faut avoir des gens qui ont à savoir pour savoir comment fonctionne un algorithme.
Donc des ingénieurs.
Des gens qui sont capables de faire des traitements de données de masse, ce qu'on appelle des data scientists.
Okay.
Il faut des juristes, bien évidemment, parce que le droit applicable à ces plateformes est spécifique. Il faut des connaissances internationales, parce qu'on passe beaucoup de temps, bien évidemment, avec la commission Commission européenne et avec nos homologues de l'Union.
Vous avez vu, il y a des viewers tentés, hein. Yoshi Rafa, comment on peut rentrer à la com pour y travailler? Est-ce que vous recrutez des juristes en droit du numérique, me demande Mrs.
Alors regardez notre site, Skitty. Regardez les plateformes sur lesquelles on fait de la publicité pour la maison.
Il y a plein de candidatures. Je recherche un job en data analyst.
On accueille aussi des stagiaires régulièrement. Voilà, c'est une maison qui est dans une phase où elle s'attache à épouser son temps et à épouser le monde dans lequel on vit.
Il y a plein de candidatures qui pop dans le chat. Bon, en allant sur le site de l'ARCOM, manifestement,
oui,
vous avez des...
Voilà, il faut aller sur le site de l'ARCOM, où on propose régulièrement des postes. Donc voilà, c'est effectivement une autorité qui s'adapte à un nouveau monde. Et avec une dimension, c'est aussi ça, je voulais souligner devant vous, internationale de plus en plus forte. On passe beaucoup de temps... au sein de l'Europe, on est membre d'un réseau qui s'appelle le réseau des régulateurs européens. Donc, dans chaque pays de l'Union, il y a une ARCOM qui est regroupée dans un réseau qui s'appelle l'ERGA, qui est actuellement présidé par mon collègue italien, mais dans lequel l'ARCOM joue un rôle important.
Tous les pays de l'UE ont l'équivalent d'un ARCOM.
Tous,
avec,
sans exception.
Bon, je suppose pas les mêmes
camions. Non, alors il y a des pays où il y a des régulateurs plus anciens et plus gros. L'ARCOM fait partie des gros régulateurs.
Quels sont les pays où la régulation est aussi présente qu'en France?
Alors, nos amis italiens, il y a un gros régulateur en Italie, en Allemagne, en Belgique. Les Anglais avaient un très gros régulateur. Bon,
ils ont quitté
l'Union, mais on continue quand même à dialoguer avec eux. Voilà, donc dans chaque pays de l'Union. Et avec la mise en œuvre du DSA dont on a parlé tout à l'heure, donc chaque pays de l'Union va devoir désigner une autorité nationale pour la mise en œuvre de ce règlement. Et donc l'ARCOM, c'est un texte de loi qui est en cours d'examen à l'Assemblée qui va être voté cette semaine. Il sera voté, je pense, le 17, d'après ce qu'on dit. L'ARCOM va être désigné comme autorité nationale pour le DSA.
Un des modérateurs de la chaîne, faut que je vous explique aussi ce que font les modérateurs, c'est un travail essentiel sur Twitch, et qu'un des éléments qui fait cette plateforme un bel endroit, vient de nous mettre le lien de recrutement de l'ARCOM, vous l'avez dans le chat.
Voilà.
Et donc, d'ailleurs, je vais vous les présenter, d'ailleurs. Les voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, Clamakin, ouais, Gandalf Listari, MMG7F, VOD Samuel. Alors Nightbot, c'est un bot qui travaille un petit peu automatiquement. D'ailleurs, pour la petite histoire, sur l'un de mes premiers streams, au tout début, quand j'étais un streamer débutant, un jour, on m'interrogeait dans le chat, on m'interpellait en disant « mais il n'y a pas de modération ici, puisque manifestement, les propos étaient un petit peu, on va dire, animés. Je vais voir dans la liste et je vois Nightbot. » Et je dis « mais si, il y a Nightbot. » Et je le remercie. Bon, c'était une bonne blague, les plus anciens vous la connaissez. Et donc les modérateurs, vous le savez peut-être déjà, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel à Twitch, ce qui contribue à en faire un espace apaisé de discussion, quand on le souhaite bien sûr, quand le créateur de contenu le souhaite, même sur les sujets les plus compliqués, on évoquait le Proche-Orient par exemple. Et donc ces modérateurs qui donnent de leur temps en forme de soutien aux créateurs de contenu pour en validant leur contenu, eh bien, ils ont trois pouvoirs. Oui, j'ai tellement ri ce jour-là, oui, c'est l'histoire de Nightbot. Ils ont trois pouvoirs. Ils peuvent supprimer, bien sûr, un commentaire quand ils ne rentrent pas dans le cadre éditorial qu'on a défini. Ici, par exemple, toutes les autres. Souvent, pour résumer, je dis toutes les opinions sont autorisées ici quand elles sont légales, bien sûr.
C'est la même règle que nous appliquons.
Voilà. Et qu'elles ne sont pas discriminatoires.
Ouais.
Homophobie, etc. Et qu'elles sont correctement exprimées, qu'il n'y a pas d'agression vis-à-vis des autres viewers, et puis vis-à-vis éventuellement du streamer, et puis vis-à-vis de l'invité. Donc, si ça ne rentre pas dans ce cadre, on supprime le message. On peut, comme vous parliez d'avertissement tout à l'heure aux chaînes de télé, lancer un avertissement qui est un ban, une suspension provisoire de l'accès au chat de quelques secondes, quelques minutes. Et puis, si la personne récidive, parce que animée d'une volonté plus de polluer, de troller que de participer à un débat sain et sympa, eh bien, on banne définitivement, on le bannit définitivement, le viewer qui peut continuer à regarder et ne pas participer.
Bah écoutez, vous faites un peu notre travail, finalement.
Mais il faut. Il faut.
Voilà. Donc, ce que je voulais vraiment redire, parce que c'est un point important, c'est pour ça que souvent, j'ai souvent dit que je trouvais que l'expression de gendarme... qui nous est appliqué, c'est vrai qu'on exerce un petit peu cette fonction-là, mais c'est très réducteur par rapport à ce qu'on fait. Notre mission centrale, elle est quand même d'être très vigilant sur la liberté de communication, sur la liberté d'expression. La loi qu'on met en œuvre, elle s'appelle comme ça, loi relative à la liberté de communication, et son article premier dit bien que la communication est libre. Et cette liberté, elle est fondamentale, bien évidemment, dans notre démocratie. Elle fonde ce qu'est notre République, ce qu'est notre société. Elle autorise beaucoup de choses. On peut dire beaucoup de choses. Hein, et dans l'approche que nous avons, nous, on a une approche naturellement très protectrice de cette liberté, très libérale au sens philosophique du terme. Mais en même temps, cette loi fixe un certain nombre de limites. Et donc, nous sommes les gardiens de ces limites. Tout n'est pas possible. Et notre action, on peut peut-être en dire un mot, Samuel, à ce stade, elle peut être coercitive. On a évoqué les amendes qu'on peut être amené à prononcer. Mais elle est aussi incitative. Et c'est là où, sur les sujets qu'on évoque, la dimension éducative, éducation aux médias, éducation à ce que j'appellerais la citoyenneté numérique, quand on a accès à ces plateformes. Ce n'est pas parce qu'on est caché par un pseudonyme ou un avatar qu'on doit se comporter différemment d'un citoyen normal dans une société. Et ça, cet apprentissage, on le voit bien avec les drames que nous avons vécus tout récemment, cet apprentissage, il est tout à fait fondamental. Il est vraiment très important que très tôt, très jeune, on acquiert ce comportement tout simplement citoyen.
Et cette zombie...
On acquiert cette éducation aux médias. Savoir tracer une information, quelle est sa source, quelle est sa fiabilité, savoir la mettre en perspective.
Et cette sensibilisation, elle doit se faire à l'école, au sein de la famille.
Elle doit se faire à l'école, elle doit se faire au sein de la famille, bien évidemment. C'est un élément central de notre vie en société, de l'équilibre de notre société, de l'équilibre de nos processus démocratiques. Et donc l'ARCOM n'est pas seul, bien évidemment, à œuvrer en la matière. L'éducation nationale y travaille très activement. Elle a un établissement qui est rattaché à l'éducation nationale qui s'appelle le CLEMI,
bien sûr,
qui fait énormément de choses en
très
matière.
Beau travail. Ouais.
Les médias, de façon générale, y compris les plateformes numériques dont on parle, déploient beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions en la matière. Tous les grands médias ont des actions de vérification de l'information, d'éducation aux médias. Et l'ARCOM, du fait de sa mission, s'inscrit dans ce mouvement-là. On incite, on mène nous-mêmes des actions de formation. Je vais moi-même dans des écoles de journalisme. Je suis allé à Sciences Po il n'y a pas très longtemps, au CELSA il n'y a pas très longtemps, faire des conférences sur ce sujet-là. Et voilà, c'est un enjeu très important. Tout ne passe pas par des actions coercitives, par des sanctions. Il faut de la régulation, mais il
de
faut
la pédagogie,
aussi de l'éducation.
Et de la soumission.
Ce qu'il faut ressouligner quand même, c'est quand on écrit. Quand on se manifeste sur ces plateformes, d'abord, il ne faut pas oublier que toute notre vie est sur ces plateformes. Nos amis, nos adresses, nos photos, ceux qu'on aime, les endroits où on va. Donc, prudence aussi dans l'utilisation de ces contenus et nécessité d'en faire un usage raisonné.
Il y a des viewers avec nous, il y a des streamers aussi. Je ne sais pas si vous, c'est Jean Massier qui vous salue, qui fait un travail dans une plateforme qui est encore beaucoup consacrée aux jeux vidéo. Alors, c'est un gamer aussi, bien sûr, l'ami Jean, notamment sur la simulation, les vols, je ne comprends rien à tout ça, Jean, il faudra m'expliquer. Et Jean, sa passion, c'est le décryptage de l'actualité politique en France. Il a des rendez-vous très ambitieux. Il vous salue. Et alors, il saluait le travail du CLEMI, par exemple. Et alors, il posait aussi une question sur... Et Jean, j'aimerais que tu précises ta pensée là-dessus. Il disait à un autre streamer qui est Defend Intelligence, qui est un ingénieur spécialisé en IA, qui est venu à la maison il n'y a pas longtemps aussi. Et Jean disait, mon petit doigt me dit qu'on va avoir des obligations. Je pense que, Jean, tu parles en tant que streamer sur Twitch, mais aucun moyen pour les remplir. Alors, est-ce que tu peux préciser ta pensée, Jean, peut-être pour en faire une question? Et est-ce qu'effectivement, il y a, Roch-Olivier, des choses qui sont dans les tuyaux pour encadrer le travail des créateurs de contenu, les streamers, les youtubeurs, en France? Il y a des réflexions en ce sens ou pas?
Alors, ce qui est vrai, ce qu'on voit, comme vous le savez, là, il y a un texte sur la sécurité numérique qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, on l'a évoqué, là, qui devrait être en principe voté cette semaine. Et en suivant les débats... On est frappé de voir toutes les initiatives qui peuvent fleurir sous forme d'amendements divers et variés sur ce sujet-là. Alors, moi, je trouve, si je peux me permettre, sur ce sujet-là.
Je vous lis la précision de Jean, et peut-être que ça va dans le sens de ce que vous vouliez aborder. Jean nous dit, grosso modo, l'ARCOM va peut-être devenir le bras armé du DSA européen. On en parlait, Jean, effectivement, il y a un instant. Je crains qu'on se prenne des obligations aussi nulles que celles de la loi sur les influenceurs, dont l'ARCOM devra veiller au respect. On sent qu'il y a un peu d'inquiétude du côté des créateurs de contenu.
Moi, enfin, j'aime bien cette question parce que je pense qu'il de même qu'il faut toujours être très vigilant à l'équilibre entre la liberté de communication, la liberté d'expression qui est fondamentale et à laquelle on ne fait jamais suffisamment attention. Je rappelle l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui parle de l'un des biens les plus précieux de l'humanité. On sait quand on commence à y porter atteinte et on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Donc, toujours vigilance sur cette liberté qui est au cœur vraiment de notre démocratie. Donc équilibre entre cette liberté et la protection des publics. Et sur ces nouvelles technologies, bien évidemment, il faut avoir une attitude de précaution sur les excès qu'ils peuvent comporter. On a parlé de la régulation. Mais il ne faut pas non plus empêcher le progrès. Je pense qu'il faut regarder le progrès avec confiance, avec avenir. Je vois sur l'intelligence artificielle, c'est souvent un peu un mal de notre pays. On a toujours cette approche très réglementaire où l'État, c'est le choc de simplification, si j'ose dire. On va tout de suite apporter une réglementation supplémentaire. Mais voyons aussi les opportunités que ça peut offrir, les sources de développement en matière de création, de développement économique. Il y a une dimension très, très positive. Et attention à la multiplication des réglementations. Avec une ambition qui est tout à fait légitime, mais qui peut aussi créer des usines à gaz compliquées à mettre en œuvre. Je ne crois pas que ce soit le cas du DSA. Le règlement est ambitieux, il est assez sophistiqué, il est compliqué, mais il est quand même très respectueux des libertés. J'ai oublié de dire tout à l'heure que c'est une régulation qui n'est pas une régulation de contrôle de contenu. On ne sera pas là... L'ARCOM a contrôlé chaque message sur X ou sur Snapchat ou sur autre plateforme. On n'est pas sur un contrôle individuel et tatillon. On est sur ce qu'on appelle une régulation systémique.
De la plateforme.
Est-ce que la plateforme elle-même met en place les obligations de moyens nécessaires pour gommer les excès, les risques que la plateforme peut comporter? Et on contrôle si ces moyens sont mis en œuvre. Donc voilà, le risque qui est évoqué... Peut exister. Je pense en tout cas que sur le DSA, ça ne sera pas le cas. Mais attention aux accumulations de réglementations par excès d'ambition qui pourraient se révéler compliquées ensuite dans leur mise en œuvre.
Je veux pas abuser du temps ni de notre invité ni de vous. Alors on parlait d'audience, tout à l'heure, on a des outils sur Twitch qui sont précis à l'unité près, puisque vous savez, à l'unité près...
C'est mieux que Médiamétrie.
Non, mais c'est fascinant, hein, c'est fascinant. C'est vrai que, du coup, c'est vrai que ce public-là, il aimerait aussi des mesures aussi précises de l'audience de la télévision. Là, on a vu qu'on a commencé ce stream, nous étions 1000, et puis nous étions 2000, et puis nous sommes 3000.
Par un prompt renfort.
Ce qui est assez fascinant. Et donc, mais je ne veux pas abuser quand même de votre temps. Je me permettrai deux dernières questions, l'une personnelle mais sympathique à la fin, parce que personnel ça peut inquiéter, et l'une justement de notre ingénieur en IA, Defun Intelligence, qui nous dit, alors ça c'est vraiment une question très Twitch aussi, mais qui est intéressante. On reçoit tout le temps donc les streamers, ceux qui font du React notamment, des bans, des strikes de chaînes de télévision hein, qui se rendent compte que leurs contenus sont utilisés et demandent que ce ne soit plus le cas. Mais est-il prévu de nous permettre, nous, les créateurs, notamment les créateurs sur Twitch et sur YouTube, d'avoir les outils pour pour dénoncer les médias traditionnels qui reprennent nos contenus sans nous citer ni autorisation, puisque c'est vrai qu'on on voit ça parfois à la télévision, dans des reportages, des contenus qui sont utilisés sans demander l'autorisation. Eux ont accès à des outils de copyright en deux clics pour nous strike, mais nous, rien vis-à-vis de la télé.
J'ai pas connaissance d'initiative allant en ce sens, mais en tout cas, je note l'observation. C'est l'une des choses que je vais retenir de la soirée, de cette préoccupation qui est évoquée là.
Alors moi, c'est un sujet dont on m'a parlé, mais je pose la question à vous et qui nous regardez et qui connaissez mieux ce sujet. Je vois que Jean dit que c'est une très bonne question, par exemple. Est-ce que c'est vraiment très courant de voir, puisqu'on parle de la télévision, à la télé française des émissions, des JT qui utilisent des contenus, de créateurs de contenus en France sans demander l'autorisation. Et de quel contenu on parle ? Parce que je le vois souvent, cette accusation qui pop dans le chat, mais MMG, merci, je l'ai vu le message. Mais je n'ai pas d'exemple concret. Est-ce que vous avez, juste pour éclairer...
J'ai pas connaissance.
Je leur demande à eux, oui, parce qu'il faut qu'ils nous disent un petit peu.
Il faudrait qu'ils nous disent, ça je serais volontiers...
Des exemples concrets.
J'ai pas connaissance, de mesures qui en soient faites.
Parce que ça, il faut ouais. Parce que c'est un phénomène intéressant dont on parle, mais j'aimerais qu'on le caractérise un petit peu. La télé fait depuis... Oui, alors l'essai courant, c'est très bien, mais j'aimerais des exemples. Altice Play qui fait du contenu vélo et urbanisme a eu des soucis avec TPMP par exemple. Décidément TPMP ce soir on en parle beaucoup. D'accord, beaucoup de créateurs de contenu s'en plaignent, notamment les chaînes famille, chaîne cuisine, d'accord, ok. La guerre des pixels peut-être, d'accord. Des vidéos YouTube, dit Jean, plagiées par des chaînes télé, oui. Non, j'ai vu d'ailleurs, alors ça pour le coup, c'est une histoire que je connais, qui a été dénoncée d'ailleurs par France Inter, une émission de France Inter célèbre qui s'était rendu compte que l'un de ses rédacteurs s'inspirait du travail d'un créateur de contenu sur YouTube, un travail historique, et pompait allègrement les contenus ni vus ni connus. Mais cette personne a été dénoncée et licenciée par France Inter. J'ai une question plus personnelle, parce qu'on sent quand même votre passion pour tous ces sujets qui remontent. À loin, puisque je crois...
N'insistez pas sur le caractère lointain.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que dès la fin de vos études supérieures, parce que je me suis un petit peu penché sur votre parcours, vous êtes parmi les gens qui ont réfléchi à l'instance du CSA. Donc on voit que ces sujets vous intéressent depuis longtemps. Vous nous avez expliqué que ce mandat de membre de l'ARCOM, et notamment de président, il était unique, pas renouvelable, mandat de 6 ans. On approche doucement de la fin. Il vous reste cette année et l'année...
Je terminerai début 2025.
Et vous nous avez aussi expliqué que pendant 3 ans, je crois, après, on a un peu interdiction d'évoluer dans ce secteur-là des médias. On est bien d'accord.
Exactement.
Pour des raisons de...
Médias et de la culture au sens un peu large du terme.
Alors ma question est...
L'autorité embrasse beaucoup.
Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire après? Je ne sais pas si vous pouvez nous le dire et si vous avez déjà réfléchi.
Écoutez, je pense que je viendrai davantage sur Twitch. J'aurai un peu plus de temps libre, vraisemblablement. J'ai pas encore eu l'occasion de me projeter dans l'avenir. On est déjà vraiment extrêmement sollicité cette année. Et l'année qui vient va être une année absolument passionnante, avec la mise en œuvre de ce règlement européen sur les services numériques qui démarre maintenant. La fin des autorisations qu'on a évoquées, ces 15 chaînes qui arrivent en fin d'échéance l'année, en 2025, donc ça va être un des gros dossiers de l'année 2024. On a aussi un dossier vraiment très intéressant qu'on appelle les services d'intérêt généraux. C'est la façon dont on va permettre une exposition privilégiée sur les interfaces qui nous permettent d'accéder au contenu audiovisuel à nos médias traditionnels par rapport aux offres des grands acteurs payants, notamment. Donc ça, c'est un gros dossier qui va aussi nous occuper. Donc voilà, je suis concentré. J'ai la chance d'avoir un très bon collège à mes côtés, d'avoir une très solide équipe au sein de l'autorité. C'est vraiment une très belle autorité. C'est ça que je voudrais vous faire partager et qui est, je pense, dans une phase vraiment intéressante de son histoire, de transformation, d'évolution, pour vraiment bien épouser son époque et à la fois mieux accompagner nos acteurs et puis mieux protéger les publics au regard des enjeux.
Le ton est parfois potache ici, vous l'avez compris, mais moi je trouve que c'est un des plaisirs de cette plateforme. Il y a quelques blagues, il y a eu quelques blagues en début de stream et quelques blagues en cette fin de stream sur le lien ou pas familial avec Rock Voisine. Je ne crois pas.
Non, alors j'aime bien Rock Voisine. Alors l'avantage de mon prénom, c'est qu'il surprend toujours.
Vous y avez droit régulièrement, je pense, à cette blague, non ?
Oui, ça a commencé très tôt, je vous rassure, dès la maternelle. J'ai eu beaucoup rock'n'roll. Rock Voisine, bien sûr, a été un grand classique pendant une période. Ça s'est un peu estompé. Mais
c'est de retour.
Non, l'avantage de ce prénom, c'est qu'on s'en souvient.
Voilà. Et alors, je vous écoutais avec beaucoup d'attention sur l'émission Les Devoirs d'un membre de l'ARCOM. Je vous avoue que moi, par exemple, c'est un secteur qui me passionne et je connais certains des sages qui ont été ou qui y sont actuellement et je sais combien c'est passionnant. Mais alors, l'idée même que quand on est, je comprends, que quand on est membre de l'ARCOM, finalement, on ne peut pas à côté travailler dans les médias et je suppose pas être streamer non plus. je suppose.
Alors c'est vrai qu'on est, voilà, c'est une des contraintes.
Ah,
on est tenu à un assez fort devoir de réserve.
C'est
vrai, oui. Il faut bien évidemment maîtriser sa parole. Bon, mais voilà, quand on quitte, après on retrouve une certaine liberté. Ah, Rock et Rookie, c'est pas mal ça. Celui-là, on me l'avait pas encore fait, et je le retiens.
Alors, peut-être que Rock Olivier, un jour, dans quelques temps, créera sa chaîne Twitch. Pour quel contenu?
Et je vais peut-être trouver mon pseudonyme aussi à l'occasion.
Alors, si vous partez sur ce sujet-là, vous allez leur faire plaisir. Parce que ce qu'il ne faut surtout pas demander, c'est parti.
Non.
C'est de qu'il vous propose des. C'est parti.
J'aurai quelques idées perso.
Alors, ce qui est formidable, c'est quand on a 3000 personnes comme ça, si on propose à la commu, c'est parti, regardez, de vous proposer des pseudos, ils vont vous en trouver. Voilà. Ah. Alors, parfois des mignons, hein. The Rock. The Rock, c'est l'acteur un peu bodybuildé, là. Ben, ça peut être sympa.
Rock Amadour, voilà. C'était pas mal.
Rock Collection, bien sûr. Rocky.
Rocky le Balboa.
Rocky Balboa, c'est pas mal. Voilà. Je lis les plus lisibles, hein, parce que je vous connais. Hein, je vous connais. Mm. Je ne vous dirai pas. Moi, ils m'ont affublé d'un pseudo que je ne vous dirai pas.
Si.
Non.
Si.
Ah non, c'est très gênant. Non, c'est vraiment gênant. Non.
Bon.
Non, faites-moi confiance. Non, je. Non, mais ne l'écrivez pas. Parce qu'un jour, j'ai fait cette erreur-là. À mes débuts, quand j'ai découvert cet univers grâce à Étoile, dont on a parlé, j'étais en stream avec lui au The Event, cet événement caritatif, et quand je me suis dit, tiens, mais quand même, cet outil est formidable, il faudrait que je me lance peut-être, qu'est-ce que vous en pensez ? Et Étoile me dit, mais il te faudrait un pseudo, et j'ai dit une bêtise, j'ai dit, bah, donnez-moi un pseudo, ne faites jamais ça. Bon. Et ils m'ont donné un pseudo qui est importable.
J'aurais quelques idées personnelles. Ouais. Bon.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup de votre invitation et merci de ce moment.
Merci de ce
très bon moment partagé. Ben,
et puis riche, parce que ce balayage des missions, des responsabilités de l'ARCOM, c'est quelque chose quand même. Hein.
Oui, c'est une belle maison. Très belle maison. Voilà.
Merci à vous.
Merci. Bonne
merci.
Soirée.
Et on va faire une dernière chose ensemble, dont je vous ai parlé au début de ce stream, c'est qu'on va faire un raid. Nous-mêmes avons reçu un raid tout à l'heure de cette chaîne qui lutte contre vous savez, les arnaques, les brouteurs, tout ça. Et donc, on va faire un raid aussi à notre tour. Donc, je vais vous mettre une petite pause. Regardez, hop, ici. Je vais vous mettre une petite musique pour vous accompagner. Vous avez 2 minutes, les amis, pour nous proposer, comme d'habitude, des noms. Donc, ils vont nous proposer des noms de chaînes qui sont en live actuellement et qu'on va aller soutenir. Et on va basculer notre audience sur une chaîne de gaming, d'actualité, de cuisine, d'art, on va voir la surprise. J'aime beaucoup le petit message de Maître Fitz qui résume peut-être le sentiment de certains. Je n'aurais pas cru, mais c'était intéressant, merci.
Merci beaucoup de votre appréciation.
Merci à tous. Je vous mets 2 minutes de musique, on se retrouve dans 2 minutes pour le raid. Hop, je coupe les micros, je vous mets une petite musique un peu chill pour finir. Je crois que c'est sympa ça. Ouais. À tout de suite. Dans 2 minutes, on raid à partir de vos propositions. Dites-moi où vous voulez qu'on aille. Les amis, hop, la pause aura duré moins longtemps que prévu parce que j'ai eu de très belles propositions dans le chat, voilà, et vous savez quoi, on évoquait le raid au début de ce stream que nous avons reçu d'une chaîne qui lutte contre le phénomène des arnaques, notamment des brouteurs sur internet. Et bien sachez que il y a une streameuse dont j'ai découvert le travail il n'y a pas longtemps qui s'appelle, le nom de sa chaîne, Arnaque-moi si tu peux. Je crois que c'est tout à fait explicite, qui est en live actuellement, 435 personnes sur la chaîne d'Arnaque-moi si tu peux, voilà. Et bien vous allez découvrir son travail, il fait un travail assez étonnant de lutte contre les arnaques, les brouteurs. Vous allez voir, je charge le raid qui part dans quelques secondes. Je vous souhaite une très très belle soirée, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous, N'allez pas trop traîner sur les réseaux sociaux en ce moment où parfois vous pouvez être exposé à des images un peu dures en ce moment. Vous faites attention, notamment protéger les plus jeunes par rapport à ça. Je parle notamment de ce qui se passe au Proche-Orient. Merci beaucoup.
Merci beaucoup,
Roch Olivier. C'était un plaisir. Le raid, pardon, 3, 2, 1. À demain matin vers 9h. On se fait une petite revue de presse. Ciao, ciao. C'est vraiment extraordinaire.